Alors, c'est la thématique le premier baiser. Garçon, 18 ans, elle a fait un braquage de la bouche. Il y en a eu deux, en fait. Le premier bisou et la première galoche. Le premier bisou, c'était en CE2. On était au milieu de la cour et tout le monde nous voyait. On était tous les deux à s'embrasser au milieu du bruit et des cris. En fait, les autres te mettaient la pression. Un, deux, trois. On était tous les deux, les mains dans le dos, les yeux fermés et smack. C'était une amourette. Pas du sérieux, mais j'aimais cette personne. C'était pas un bisou pour jouer. Il y avait quelque chose entre nous. J'ai ressenti une petite joie après, car j'avais embrassé une fille. Par la suite, je l'ai embrassée de nouveau plusieurs fois. La deuxième fois, j'avais 12 ans. J'étais en couple avec elle. Pas depuis hyper longtemps, genre une semaine. J'arrivais le matin au collège et on attendait en rang pour rentrer en cours. Ceux de ma classe ne regardaient pas forcément. Mais ah là là, le délire! Je m'attendais juste à un bisou. Moi, le matin déjà, faut pas me parler, j'émerge. Là, j'arrive, elle m'attrape, et là, genre, elle me fait un braquage de la bouche. J'ai rien compris. J'ai laissé faire. Je la tenais par la taille et elle m'a pris la nuque. On avait les yeux fermés. Ce baiser, par rapport au premier, il était dégueulasse. J'étais trop surpris. On est resté quelques semaines ensemble et on s'est embrassé plusieurs fois, mais ces fois-là, je m'y attendais. On peut m'embrasser le matin, mais faut y aller tranquille.
Témoignage intéressant. Moi, je vais vous faire une présentation en fait de la sexualité à l'adolescence. Donc, je me présente, je suis Sandra Massé, psychologue. Et donc, ça va être une présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Je vais vous expliquer les grandes lignes de la sexualité à l'adolescence et puis donner quelques petites pistes pour pouvoir aborder ce sujet avec les ados. Et ensuite, on aura un temps d'échange d'une heure environ, je crois. Vous pourrez poser toutes vos questions à la suite de mon intervention. Bien. Alors la sexualité et l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est une période qui va aller de la puberté à l'âge adulte et dans laquelle il va y avoir différentes phases et différentes transformations. C'est-à-dire que les adolescents vont connaître des transformations physiologiques, physiques et psychologiques. Ces transformations physiologiques et physiques vont amener effectivement des changements physiques qui vont aboutir petit à petit à l'émergence de la sexualité. C'est-à-dire qu'on va voir arriver chez le garçon, dans les premiers signes de la puberté, il va y avoir les premières éjaculations, la voix qui va muer au fur et à mesure du temps, la masse musculaire qui va augmenter, la taille aussi du garçon, l'élargissement des épaules, et puis la pousse des poils. Ces premiers signes, on va les retrouver aussi chez la fille, avec quelques différences quand même, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi une augmentation de la taille, une augmentation de la pilosité aussi, et puis les premières règles, le bassin qui va s'élargir un peu, la pousse des seins aussi, et tous ces signes-là sont des signes de que la physiologie du corps change, qu'au niveau hormonal nous changeons, et puis bah, ça va amener du coup des interrogations psychologiques sur son corps, et puis forcément sur ce que ce corps amène maintenant qu'il devient pubère, à savoir la sexualité. Alors il faut savoir que normalement ces transformations physiologiques, elles sont plutôt bien vécues en général par les adolescents, mais elles peuvent amener parfois quelques difficultés, c'est-à-dire qu'ils vont parfois se stresser de leur transformation, ils vont parfois s'angoisser de leur transformation, et lorsque c'est pas bien accompagné ou pas accompagné, ça peut générer parfois même des angoisses. C'est-à-dire que ce corps qui se transforme, il se fait indépendamment de la volonté d'un adolescent. C'est-à-dire que jusque-là, le corps, en fait, avant l'adolescence, il se contentait de grandir, en fait, il se transformait pas. C'était un corps d'enfant qui grandissait, et là non seulement le corps continue de grandir, mais en plus il se transforme, et c'est pas forcément, enfin, c'est pas volontaire, c'est-à-dire que l'adolescent se dit pas à un moment donné qu'il veut que son corps change, et son corps va changer malgré lui, et parfois ça peut être source d'angoisse. Alors ça peut être source d'angoisse aussi quand ça va être mal accompagné ou pas accompagné, c'est-à-dire que s'il y a un défaut d'information par rapport à ça, si il y a une dissimulation parentale par rapport au changement pubertaire, par rapport à la sexualité, s'il y a aussi une culpabilité. C'est-à-dire que parfois, dans certaines familles, on va trouver des parents qui vont être très culpabilisants sur les premiers signes de la sexualité chez leur enfant. Et ça peut effectivement continuer de générer des angoisses et inhiber l'ado. Alors les ados, quand ils vont avoir des difficultés à pouvoir en parler avec leur famille, ils vont trouver des adultes avec qui en parler. Alors, souvent, ça va être des grands-parents, parfois un oncle, une tante. Moi, je vois beaucoup d'adolescents qui me disent qu'en fait, ils en parlent avec les parents de leurs amis. C'est-à-dire que ça reste quand même la même génération que celle de leurs parents, mais ils trouvent ça plus facile d'en parler avec le père ou la mère d'un copain ou d'une copine. Ils vont en parler entre eux aussi, bien sûr. Ils vont parfois en parler au médecin. Moi, j'en avais parlé à mon médecin. J'avais des difficultés à en parler avec mes parents et j'avais saisi l'occasion d'une consultation chez le médecin pour pouvoir en parler avec un adulte. Et puis en plus, je me disais qu'il était bien placé en tant que professionnel de la santé, que les questions que j'avais sur mes changements physiques ou sur ce qui pouvait se passer chez le garçon, il pouvait me renseigner là-dessus. Et puis je trouvais que l'approche était intéressante puisque c'était médical. Du coup, il n'y avait pas de sentiment là-dedans et que c'était plus facile pour moi d'en parler. Et puis je me disais qu'une fois parlé, de toute façon, je fermais la porte du bureau, je partais et puis que je ne le reverrais pas tout de suite. Donc du coup, ça me déculpabilisait un peu et ça me soulager. Donc en fait, l'adolescent va trouver à parler autour de lui de tout ça, mais je pense que c'est important s'il peut trouver à en parler auprès de sa propre famille aussi et pas de se sentir isolé par rapport aux questionnements qu'il pourrait avoir par rapport à ça. Donc c'est important aussi, quand on veut en parler avec eux, de respecter les interrogations qu'ils ont et la maturité aussi psychosexuelle qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas aborder le sujet de la sexualité avant qu'ils soient matures pour ça. Et ce qui peut nous donner justement un indicateur de la maturité psychosexuelle, ça va être ces premiers signes justement de la puberté, qui vont être les premières règles chez la fille et les premières éjaculations chez le garçon, qu'elles soient les pollutions nocturnes, qu'elles soient spontanées ou décidées par le garçon. Ça va être le moment aussi où on va pouvoir commencer à aborder les questions de la contraception, de la conception, des maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est un moment qui est vraiment important. Dans cette période-là, au moment où vont se faire toutes ces transformations pubertaires, toutes ces transformations physiques et physiologiques, psychologiquement, ça va avoir une incidence. C'est-à-dire que c'est le moment où l'adolescent va se poser des questions aussi sur son genre, sur son identité sexuée et sur son orientation sexuelle. C'est-à-dire que l'adolescent va appréhender le genre masculin-féminin. Il y a eu tout un débat de société autour de cette question du genre. Et en fait, c'est quoi exactement la question du genre ? C'est-à-dire que c'est le sentiment profond de différenciation avec l'autre sexe et d'appartenance à un sexe. Donc cette question-là, elle se pose. Et avec cette question de genre vient la question de l'identité sexuée. C'est-à-dire que, je suis une fille ou je suis un garçon, donc je suis un homme, une femme. C'est de se sentir totalement homme ou femme, et avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire toutes les représentations qu'on a autour du sexe dont on fait partie, toute la signification que ça a, toute la symbolique qu'il y a autour de ça, les comportements aussi que l'on pense devoir adopter parce qu'on est de tel ou de tel sexe, les stéréotypes aussi qui sont associés au genre. Ça fait beaucoup de dégâts, les stéréotypes de genre en termes de construction de soi. On est dans des sociétés qui nous enferment beaucoup dans les stéréotypes de genre et qui créent beaucoup de distance du coup entre les hommes et les femmes et beaucoup d'incompréhension parce qu'on va trop scinder ces deux univers. Il y aura toujours des différences fondamentales entre les hommes et les femmes parce que déjà physiquement nous ne sommes pas les mêmes. Donc la représentation que nous avons de nous-mêmes, quand on se regarde dans un miroir, l'idée que l'on se fait de soi à travers son corps est différente de celle de l'autre sexe. Donc moi je suis pour l'égalité des sexes, je ne suis pas pour la suprématie de l'un sur l'autre, mais on pourrait être plus proches les uns des autres et mieux comprendre l'autre sexe si on n'était pas enfermé dans nos stéréotypes. Je pense que du coup, dans la sexualité, on se comprendrait mieux aussi. Il y aurait beaucoup moins de problèmes dans la vision que les filles ou les garçons ont de la sexualité. On pourrait avoir une vision un peu plus commune. Vient aussi la question de l'orientation sexuelle. Alors, il faut savoir qu'à l'adolescence, les fantasmes, l'orientation sexuelle, les désirs et les conduites sexuelles que l'on a, on va les penser par rapport à quelqu'un de l'autre sexe, quelqu'un du même sexe, et parfois même par rapport aux deux sexes. Le choix du partenaire sexuel, il n'est pas défini à l'adolescence. Et certains adolescents vont passer par des phases qu'on appelle transitoires, provisoires, d'homosexualité. C'est pas dans un comportement homosexuel direct, c'est-à-dire que c'est pas comme une sexualité adulte homosexuelle, c'est plutôt dans quelque chose de narcissique. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller découvrir le corps d'un autre semblable parce qu'on trouve ça moins inquiétant, plus facile que d'aller découvrir en fait le corps de l'autre sexe. Et c'est dans quelque chose de narcissique qui est que, après tout, je voudrais aller à la découverte de mon corps. Je le fais avec quelqu'un qui me ressemble parce que c'est moins inquiétant. Cette phase-là, elle peut durer un peu, mais c'est-à-dire que ça va être juste une découverte. Et puis, en général, après ce comportement d'homosexualité transitoire, ça va aboutir à une sexualité hétérosexuelle pour la majorité d'entre nous. Mais s'il y a effectivement homosexualité, c'est à ce moment-là que ça va se poser. C'est-à-dire que ça va devenir le moment où elle va se poser délibérément et de façon assumée. Alors, Ça, c'est un idéal, hein, de façon assumée, parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas toujours de façon assumée, parce que il y a eu un témoignage là qui a été lu sur justement un jeune homme homosexuel qui parlait de toute son angoisse de pouvoir le révéler et de la crainte qu'il avait de la réaction des autres et de lui-même de se poser des questions sur ce qu'il était. Ensuite, donc, vont se poser comme ça différentes choses sur l'orientation sexuelle et vont arriver aussi les premières manifestations d'une sexualité. Merci, c'est gentil. Merci. Alors, les premières manifestations de la sexualité, ça va être la masturbation, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a d'abord une sexualité qui va être centrée sur soi, auto-érotique, et la masturbation, elle est vue différemment chez les filles et les garçons. C'est-à-dire que pour le garçon, ça va être la découverte de la zone érogène, qui est le pénis, de l'érection, du plaisir qui est lié à ça aussi. Ça peut parfois être mal vécu. C'est-à-dire que ça peut être anxieux, anxiogène. Ça va dépendre aussi beaucoup du discours familial, en fait, sur ce qu'est la masturbation. L'adolescent peut avoir un sentiment de honte par rapport à ce comportement qu'il a, un sentiment d'anxiété. Et ça, ça va se manifester souvent par des plaintes somatiques chez l'adolescent. Il va se plaindre de son corps. Si dans le discours parental, il y a quelque chose qui laisse entendre que ce comportement serait ou une faute ou un interdit, qu'il soit réel ou supposé. C'est-à-dire que parfois, les adolescents, il n'y a pas d'interdit réel, mais ils ont cru comprendre dans le discours de leurs parents que ce qu'ils faisaient était peut-être interdit. Donc cet interdit qu'ils vont supposer peut générer chez eux aussi de l'anxiété. Ils vont se dire que ce qu'ils font, c'est pas bien. S'il y a une hypervigilance parentale par rapport à ça, si les parents sont trop présents par rapport à ce qui pourrait se faire dans l'intimité de la chambre de l'adolescent, ça peut aussi générer de l'anxiété. Et en fait, cette anxiété, elle peut se transformer en angoisse. Et on va voir des adolescents parfois qui vont avoir ce qu'on appelle des dysmorphophobies. C'est-à-dire que ça va être des idées délirantes sur leur corps. Ils vont focaliser sur une partie de leur corps qu'ils vont trouver mal faite. Et entre autres, à ce moment-là, l'adolescent va focaliser sur son pénis et la taille de son pénis. Il va se complexer de la taille de son pénis. Il va avoir vu dans les vestiaires, à l'école... pour le sport, d'autres garçons, par exemple sous la douche ou autre, dont il va se dire mais moi le mien il est plus petit ou il est pas normal, il est pas fait pareil. Et ça peut rendre vraiment beaucoup de place dans la tête d'un ado, ces questions sur la normalité de son physique et sur ce qu'il fait, est-ce que c'est bien ou pas. Chez les filles, il y a aussi de la masturbation. On croit qu'il y en a moins, en réalité 60% des filles le font, mais c'est qu'elle est beaucoup moins reconnue. C'est beaucoup plus tabou, en fait, la masturbation chez la fille. Et elle n'est pas orientée exactement de la même façon. Autant le garçon aurait tendance à être centré un peu sur son pénis, en même temps, on peut le comprendre, je veux dire, il a juste à baisser la tête et il voit. Et il voit aussi, du coup, des manifestations physiques chez lui. Pour la fille, ça va être plus large, en fait, comme exploration. C'est-à-dire qu'elle va pas se centrer sur les zones érogènes de son, enfin, sur cette partie-là, en tout cas, la zone génitale de son corps. La masturbation physique, elle va prendre le corps de façon plus large. C'est-à-dire qu'elle va, les filles, elles vont se caresser plus, la poitrine, d'autres parties du corps, les cuisses. Elles vont aller explorer, en fait, plusieurs parties érogènes de leur corps et elles peuvent, elles aussi, comme les garçons, éprouver une certaine culpabilité à le faire, d'autant plus que c'est considéré plus tabou. Et que ça passe, ça, ce côté tabou de la masturbation chez la fille, ça passe dans le discours. Du coup, elles vont se culpabiliser énormément par rapport à ça, bien plus que les garçons. C'est ce qui fait que du coup, il y a un frein, en fait, à cette découverte de son propre corps et à la découverte de sa propre sexualité. Les filles ont tendance à aller moins découvrir leur corps, moins leur sexualité, ce qui va amener, du coup, dans l'avenir, une plus grande difficulté aussi à appréhender le rapport sexuel et peut-être même à y trouver son plaisir, du coup, dans la sexualité. C'est-à-dire que cette découverte-là, elle est fondamentale. Elle est essentielle. Je me souviens, quand j'étais adolescente, il y avait une radio qui s'appelait Skyrock à l'époque, où il y avait un médecin à cette radio qui disait « ça n'est pas sale ». Je ne sais plus comment il s'appelait, mais ils étaient deux animateurs, dont un était un médecin, et ils parlaient beaucoup de ces sujets-là. Et je pense que cette radio, moi, j'étais pas très fan des musiques qui passaient sur cette radio, mais je pense qu'elle avait une vraie utilité en attendant pour les adolescents. Enfin, les sujets qui étaient abordés pouvaient déculpabiliser beaucoup les ados, parce que le discours de ce médecin était un discours qui était très ouvert et qui expliquait que ces pratiques-là, elles étaient naturelles et normales pour aller à la découverte de soi, la découverte de son plaisir, et que c'était important d'aller à la découverte de son propre plaisir avant d'aller le découvrir avec un autre. Donc ça, c'est important. La fille, elle peut aussi avoir des dysmorphophobies par rapport à son corps. Elle va pas se centrer, elle, sur la taille de son pénis, puisqu'elle n'en a pas. En général, elle va se centrer plutôt sur la taille de sa poitrine. Moi, j'étais très complexée par la mienne quand j'étais adolescente, et j'avais tendance à porter de très grands pulls. J'avais une très petite poitrine, et en fait, c'était pas un choix judicieux, les grands pulls très larges, parce que du coup, j'en avais plus du tout, en fait, sous ce pull. J'ai appris plus tard que pour une petite poitrine, il valait mieux mettre des choses plus serrées. Du coup, montrer le peu qu'on a, en fait. Voilà. Mais bon, j'essayais de masquer comme je pouvais, et puis j'étais complexée par rapport à ma grande sœur, qui avait une poitrine plus importante que la mienne, et je me disais, mais la mienne, elle pousse pas. Et ma petite sœur, celle qui me suivait aussi, à un moment donné, m'a dépassée, même en taille de bonnet aussi, et c'était extrêmement frustrant pour moi. Donc c'était quelque chose qui était quand même très présent dans ma tête, et qui est en réalité très présent dans la tête d'un adolescent, et qui peut générer des complexes dont l'adulte ne mesure pas parfois l'impact psychologique que ça peut avoir, et on va prendre un peu ces complexes-là à la légère, on va se dire « oh, mais c'est pas grave », alors qu'en réalité, ils peuvent générer une vraie souffrance, en fait, chez l'adolescent. Donc c'est important de savoir que la vision qu'il a de son corps, la vision de ses attributs physiques et sexuels peut l'amener à être mal. Donc c'est important de pouvoir entendre ce qu'il a à dire par rapport à ça. Après la masturbation, qui est le premier accès à la sexualité, va venir le moment des premiers flirts. Alors c'est important ce moment-là parce que ça va donner un autre aspect de la sexualité. C'est-à-dire que le flirt, c'est la séduction. Et ça va montrer que dans la sexualité, il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi l'aspect relationnel, l'aspect de séduction, c'est-à-dire qu'en fait, on va apprivoiser et expérimenter la séduction à l'autre dans des petits rituels de parade, dans des jeux de dissimulation, c'est-à-dire que c'est je te regarde pas, tu me regardes pas. Voilà, donc ça va être quelque chose d'un peu plus... Il y a un aspect plus romantique, en fait, dans la sexualité, c'est aller essayer de séduire quelqu'un et puis d'aller éprouver aussi sa capacité à séduire. Alors, il faut savoir que ces premières expériences, ces premiers flirts, ce sont des expériences qui sont fondamentales sur ce que ça va laisser, en fait, comme trace dans la mémoire pour l'avenir, en fait, pour la relation future. C'est-à-dire que ça va nourrir des fantasmes pour la sexualité future. Donc, c'est important, en fait, que ces périodes-là, que cette période de premier flirt se passe bien. C'est important que ça se passe dans le respect de soi, dans le respect de l'autre et dans un climat qui soit sécurisant. Parce que si ça devait ne pas l'être, ça va inhiber la relation pour l'après. Quand on a de bons souvenirs de ses premiers flirts, on est assez à l'aise en fait avec le fait d'aller vers l'autre. On est assez à l'aise dans la séduction, on est assez à l'aise avec sa capacité à séduire et de croire que l'on peut séduire. Si ça s'est mal passé, ça va inhiber et on va avoir du mal du coup à pouvoir rentrer dans de la séduction, à se mettre en relation avec quelqu'un et du coup même aller dans la sexualité. Après la masturbation et les premiers flirts, vient le moment crucial des premiers rapports sexuels. Eux aussi, ils vont avoir une incidence sur la construction de la vie sexuelle future. C'est-à-dire que si le premier rapport sexuel se passe bien, il va conditionner la vie sexuelle future. Ça veut dire que si ça s'est bien passé, on sera plutôt confiant et on aura moins de mal à imaginer recommencer et renouveler cette expérience. Si ça s'est mal passé, on va avoir des difficultés à avoir le désir de renouveler cette expérience. On va être méfiant et certains adolescents peuvent attendre parfois des mois, voire des années avant de renouveler l'expérience parce que la première n'a pas été agréable et qu'ils vont penser que toutes les autres fois se dérouleront comme la première fois. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et qu'on pourra leur expliquer que c'est pas parce que la première fois ça s'est pas extrêmement bien passé que ce sera toujours comme ça. Mais pour pouvoir leur expliquer ça, il faut pouvoir en parler avec eux. Donc le premier rapport sexuel, il est important. Souvent, parce qu'on va se lancer dans l'inconnu, hein, c'est quand même le grand saut, souvent en fait il y a une déception pour les filles et les garçons par rapport à ce premier rapport sexuel, parce que ils vont se dire que c'est pas aussi bien que quand ils faisaient tout seuls. C'est-à-dire qu'à force par exemple, je vous parlais de la masturbation tout à l'heure, à force de le faire seul, on finit par bien connaître son corps, bien connaître le moment où l'excitation vient, le moment où le plaisir vient. Et puis, avec un autre, ça se passe pas exactement de la même façon. Et parfois, il y a une déception. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mais c'est pas aussi bien, tout seul, c'est mieux. Et parfois, l'adolescent va se retrancher vers ce plaisir auto-érotique parce que il a été déçu de ce qui s'est passé avec un autre. Et il va se recentrer sur lui pendant quelques temps. Donc, c'est important aussi de les amener à comprendre que ça demande du temps et de l'expérience. et que ça va pas. Les films nous font croire. Moi, ça me fait toujours halluciner un peu ces images de films un peu romantiques où on voit des adultes qui se rencontrent, un couple qui se rencontre, et puis ça a l'air d'être l'apothéose dès le premier rapport sexuel. Ils ont l'air d'être extrêmement satisfaits. Moi, quand je regardais ça à l'adolescence, du coup, je m'attendais à ce que mon premier rapport sexuel soit aussi satisfaisant et aussi génial que dans les films, et en réalité, ça ne l'est pas. Enfin, ça l'est peut-être pour certains d'entre nous, tant mieux. Mais ça l'est pas pour la majorité d'entre nous. Ça n'est pas à la hauteur de ce qu'on a vu dans ce film. Et on se dit, ah ben quand même. Alors du coup, on arrive à douter. On se dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Non, c'est le film en fait. Il faut comprendre que c'est du cinéma et qu'il y a une différence entre le cinéma et la réalité. Donc ça, ça peut amener certaines désillusions. Donc c'est important d'expliquer qu'il faut du temps. Du temps pour apprendre à se découvrir. Du temps pour apprendre à découvrir l'autre. Du temps pour s'adapter à l'autre. Et du temps aussi pour utiliser au mieux ce corps qui est nouveau. Parce que comme c'est un corps nouveau pour nous, c'est un corps qu'on va devoir apprendre à appréhender, et toutes les compétences et toutes les capacités de ce corps, ben ça demande du temps en fait pour le savoir, ça demande de l'expérience, de la pratique, et plus on augmente son expérience et sa pratique, et mieux on appréhende son corps, et mieux ça se passe. Alors c'est important de ne pas banaliser ces premières expériences, quand elles sont décevantes, c'est important de ne pas les dramatiser non plus. C'est, en fait, on porte pas de jugement dessus, on va pas dire « ouais, oh, c'est rien » ou « oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est grave ?» Parce que, comme je vous le disais, ça va influencer la vie affective et la vie sexuelle future. Et le fait, par exemple, de dramatiser une situation va amener de l'angoisse. Déjà, il y a un minimum d'angoisse, en fait, chez l'adolescent par rapport à la découverte de sa sexualité, parce que il y a souvent un décalage important entre son imaginaire et le réel. Il faut savoir quand même que certains adolescents, avant de passer à l'acte, ont nourri des fantasmes pendant des mois, voire des années. Donc, ils ont eu le temps de penser à ça, de la façon dont ça allait se passer. Et puis, ben, arrive le moment où ils passent à l'acte, où ils sont dans le réel, et le décalage est énorme parfois. Et ça, ça peut être très angoissant aussi. Alors, il faut aussi savoir que les enjeux dans la sexualité ne sont pas les mêmes entre les filles et les garçons. C'est ce qui va amener parfois des difficultés dans la relation sexuelle entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que les enjeux, en fait, pour, je vais d'abord vous donner les enjeux pour l'adolescent et ensuite pour l'adolescente. Souvent, l'enjeu pour l'adolescent, dans les premiers rapports sexuels, ça va être une anxiété de performance. Le garçon va chercher à être performant dans ce qu'il fait. Et comme, parce qu'il manque de pratique dans sa sexualité, ça reste assez mécanique au départ, en général, il est assez satisfait. C'est-à-dire qu'il arrive assez facilement au plaisir, il est plutôt satisfait de son premier rapport sexuel. Ce qui n'est pas du tout le cas, ou rarement le cas en tout cas chez la fille, parce que l'enjeu chez la fille, en fait, c'est pas un enjeu de performance. Chez les filles, l'enjeu est très différent. Autant le garçon est centré sur lui dans un enjeu de performance, autant la fille, parce que c'est le monde dans lequel on vit et qui nous amène à ça, et c'est ce que je vous disais, ces stéréotypes de genre parfois nous font du mal, la fille, elle va être centrée sur son partenaire. C'est-à-dire que son enjeu à elle, ça va être de faire plaisir à son partenaire. Donc on a un garçon qui lui pense à sa performance, qui rencontre une fille qui, elle, est dans l'idée de lui faire plaisir. Donc, en général, c'est rarement bien pour la fille. C'est pas de bol pour nous. Voilà. Elle est dans ce désir-là, dans le désir de faire plaisir à son partenaire. Alors, je pense que c'est essentiel de lui expliquer que la sexualité, elle n'est pas que pour l'autre, que ça se fait à deux. Que quand on est dans son plaisir auto-érotique, c'est très bien, c'est juste pour soi. Mais quand on est dans une relation sexuelle avec un autre, c'est essentiel d'aller expliquer aux adolescentes que la sexualité, c'est pas uniquement pour faire plaisir au partenaire, que c'est pour son propre plaisir à soi. Parce que lorsque les filles sont dans l'idée de le faire que pour faire plaisir au partenaire, ça peut les amener parfois à faire des choses dont elles n'ont en réalité pas envie. Mais elles veulent pas le décevoir, elles veulent pas le contrarier, et donc elles vont être parfois amenées dans leur sexualité à faire des choses qu'elles ne veulent pas, pour lesquelles elles n'auront aucun plaisir. Donc c'est essentiel de leur indiquer qu'il y a leur plaisir aussi à elles dans la sexualité, que c'est aussi leur désir et qu'elles doivent la pratiquer dans le respect de ce qu'elles sont, pas juste pour l'autre. Ça, c'est une notion essentielle. Les autres différences entre les filles et les garçons sont sur des questionnements. On n'a pas les mêmes questions et pas les mêmes objectifs. Le garçon va souvent se demander s'il est normal, il a la peur de ne pas assumer, il va être très centré sur lui. Et comme les premiers, effectivement, rapports sexuels sont plutôt mécaniques, ça se passe plutôt bien pour lui. Mais il faut savoir que dans l'idée, pour le garçon, souvent, les premiers rapports sexuels, c'est de l'expérimentation. Il va vouloir faire l'expérience de sa sexualité et il va utiliser les premiers rapports sexuels comme un entraînement, en fait, à sa sexualité. Et là, c'est une différence qui est énorme avec les filles qui, elles, quand vous interrogez des adolescentes, ont tendance à vous dire souvent qu'elles veulent faire l'amour par amour. Donc, elles ont une idée d'un engagement. Le garçon, il est dans une idée d'expérimentation. C'est ce qui va amener, il y a eu un témoignage tout à l'heure qui en parlait, le garçon, en fait, il ne pense pas blesser la fille après, c'est-à-dire quand il la laisse, après le premier rapport sexuel, il est persuadé que dans la tête de l'adolescente, il y a la même chose que dans la sienne. Il est persuadé qu'elle utilise, elle aussi, ce premier rapport comme un entraînement, comme une expérience. Donc, ils n'ont pas idée, en fait, qu'ils vont blesser la personne qui est en face. Parce qu'ils supposent qu'elle pense comme lui. Mais comme la fille pense parfois différemment, elle va être blessée, elle va avoir eu le sentiment qu'il l'a utilisé. Elle se dit, il a eu ce qu'il voulait et maintenant il me laisse tomber. Donc c'est important aussi, je pense, de pouvoir expliquer aux garçons que dans la tête des filles, même si parfois certaines sont aussi dans l'idée de j'expérimente, je peaufine ma pratique, c'est pas toujours le cas. Et que si on les laisse tomber juste après, elles peuvent le vivre comme une vraie blessure, comme une vraie trahison, d'avoir eu le sentiment qu'elle n'était qu'un objet pour ce garçon. Donc ça, c'est essentiel de prendre le temps de leur expliquer ça. Et puis, le plaisir féminin, il est moins facile si elles ne sont pas amoureuses, mais je vais apporter quelque chose d'important. Le plaisir féminin est moins facile, mais il n'est pas moins fort, il n'est pas moins intense, et des études prouvent d'ailleurs qu'au contraire, il l'est beaucoup plus. C'est plus difficile peut-être pour une femme d'atteindre l'orgasme, parce que c'est un peu moins mécanique, mais c'est prouvé. Nos orgasmes à nous, femmes, sont plus puissants, plus fort que les orgasmes masculins. Alors, on en a peut-être moins souvent, mais quand ça nous arrive, c'est bien. Comment ? C'est intense, oui. Mais c'est surtout qu'en fait, justement, comme on est moins centré et qu'on est plus dans l'idée du désir de l'autre, on a besoin de plus d'échanges, on a besoin de plus de communication, on a besoin de plus d'attention. Faut savoir que, par exemple, sur des problèmes de frigidité, les médecins, en fait, avant de poser un diagnostic de frigidité chez une femme, vont beaucoup questionner le partenaire sexuel et demander s'il est attentionné, s'il est à l'écoute. Et ça veut dire qu'en fait, il y a rarement, en réalité, de vrais diagnostics de frigidité. Il y a surtout, en fait, des femmes qui ont le sentiment qu'elles comptent peu pour leur partenaire et qui ont beaucoup de mal, du coup, à se lâcher sexuellement avec lui. Donc, en fait, il y a une expression qui dit « il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des hommes qui ne savent pas s'y prendre ». Elle est un peu excessive, cette expression, parce qu'il y a des hommes qui savent extrêmement bien s'y prendre, mais les femmes ont effectivement, elles sont moins centrées, en fait, sur leur propre désir. Donc, c'est important de prendre le temps de les écouter, de leur permettre aussi de parler de leur sexualité. Donc, et puis, les jeunes filles, quand elles ont leur premier rapport sexuel, souvent, elles sont moins inquiètes que les garçons parce qu'elles vont choisir un partenaire un petit peu plus vieux, dont elles supposent, c'est pas forcément le cas, parce que les garçons parfois se vantent de choses qu'ils ne font pas, elles vont supposer qu'il est un peu plus expérimenté. Du coup, elles se disent, si je sais pas faire, c'est pas grave, il va m'apprendre, quoi. Ça, le garçon, lui, il est gêné à l'idée que la fille devrait lui apprendre quelque chose. Donc, il va faire croire que lui, il sait. Moi, je pense qu'il faut le temps quand même d'une découverte et d'une découverte qui soit réciproque. C'est-à-dire que c'est important de prendre le temps de découvrir son propre corps et sa sexualité. C'est important de prendre le temps de découvrir le corps de l'autre et la sexualité de l'autre. Il y a trop de garçons qui pensent qu'ils savent faire l'amour aux femmes, alors qu'en fait, en réalité, ils ne connaissent rien du plaisir et du désir et du corps féminin. Moi, je ne pourrais pas prétendre que, je pouvais pas prétendre que de façon naturelle, je savais faire l'amour à un garçon. Le corps que j'avais exploré était le corps d'une fille, le mien. Et donc, du coup, je pouvais pas être enclin à penser que je savais exactement comment donner du plaisir à un homme. Ce sont les hommes qui me l'ont appris, ça. En discutant avec eux, en leur demandant ce qu'ils aimaient, en les voyant faire, j'ai appris à travers ce qu'ils désiraient et à travers leur discours ce qui leur faisait plaisir. Et puis, je leur ai dit, attends, moi, je vais t'expliquer aussi pour moi. Non, non, ne crois pas que tu sais. Tu n'es pas dans mon corps, tu ne connais pas. Donc, c'est essentiel de prendre le temps de cette découverte réciproque. Elle est vraiment importante. Et comme c'est effectivement moins mécanique chez la femme, nous, on a besoin de préliminaires aussi, parce que notre sexualité à nous, les femmes, est quand même très liée à notre tête. Ce qui fait que, moi, j'envie les hommes qui ont une capacité à pouvoir faire la part des choses, c'est-à-dire à s'être disputés dans la journée avec leur femme et la désirer quand même le soir quand ils vont se coucher. Je les envie parce qu'ils savent vraiment faire la part des choses entre leur vie affective et leur vie sexuelle. Nous, s'il nous a contrariés dans la journée, quand on est en colère, on n'a pas envie. Voilà. Et ça, ils ont du mal à le comprendre parfois. Ils disent, mais tu ne m'aimes plus. Ah non, ça n'a rien à voir. Je sais pas que je ne t'aime plus. C'est que je suis en colère contre toi. Donc, en fait, ils auraient tout à y gagner à nous mettre moins souvent en colère. Eh oui, c'est clair. Alors, à ce moment-là, forcément, avec la masturbation, les premiers flirts, les premiers rapports sexuels, il y a quelque chose d'important qui va se passer chez l'adolescent, ça va être son besoin d'intimité. On va voir à ce moment-là le besoin d'intimité qui va augmenter énormément. Ça va être vécu, cette période-là, elle peut être vécue un peu comme angoissante parfois parce que la problématique sexuelle, elle va être beaucoup dans la tête d'un ado. Les ados vont pouvoir parler facilement de leur premier baiser en général. C'est-à-dire que, à l'époque où ils le vivent, souvent ils sont encore assez proches de leurs parents. Donc les confidences sur ce sujet-là sont pas étonnantes. Il y a un auteur qui s'appelle Alain Braconnier qui disait que le premier baiser, c'est le symbole de l'accession à la sexualité adulte. L'adolescent est plutôt fier, en fait, de parler de son premier baiser avec ses parents. Il est encore proche d'eux et il va, comme ça, plus facilement, effectivement, se confier. Par contre, ça va changer avec le premier rapport sexuel. Alors, pour vous rassurer, parce que j'entends beaucoup de questions à ce sujet, sachez que la moyenne d'âge pour le premier rapport sexuel, c'est encore aujourd'hui 17 ans. Il y a beaucoup, il y a quelques adolescents qui le font beaucoup plus tôt qu'avant, c'est vrai, mais en moyenne et de façon générale, c'est toujours 17 ans. On a une vision, nous adultes, de la sexualité adolescente, où on a l'impression qu'ils le font beaucoup plus tôt qu'avant, c'est une minorité d'entre eux. Ils en parlent peut-être plus facilement, effectivement, qu'avant. Ils accèdent peut-être beaucoup plus facilement qu'avant à la pornographie. Mais en attendant, le développement psychique, physique et la maturité sexuelle, elle n'a pas changé. Donc, l'adolescence se fait toujours de la même façon. La puberté se fait toujours de la même façon. Il n'y a pas de puberté. Il y a quelques pubertés un peu plus précoces qu'avant, qui seraient dues à notre alimentation. Mais en général, ça reste 17 ans. Donc, rassurez-vous. Parce que ça, c'est une source d'angoisse pour les parents. Je l'entends beaucoup dans mon bureau. Ils s'inquiètent que ça vienne trop tôt dans la vie de leur enfant. Donc, ça reste en majorité 17 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, ils vont prendre le temps de mûrir pendant des mois ou des années des fantasmes. Et ça n'appartient qu'à eux. Et c'est ce qui fait que ça va créer de la distance. C'est-à-dire que ces fantasmes-là, ils les auront vécus seuls, dans l'intimité de leur chambre. Ils les auront nourris dans leur tête. Ils en auront parlé avec leurs copains. Et ils n'ont plus vraiment le désir de parler de ça avec leur famille. Ils se sentent un peu devenus adultes, en fait, à partir du moment où ils ont eu leur premier rapport sexuel, et du coup, ça va créer une distance avec les parents. C'est inutile de vouloir suivre la vie sexuelle de son adolescent, parce que plus vous allez essayer de vouloir la suivre, plus il va vous trouver intrusif, plus il vous mettra à distance, et moins il viendra se confier sur le sujet. Et ce qui est problématique, c'est que si elle se passe bien, sa sexualité, c'est pas un problème qu'il se confie pas sur le sujet. Si ça se passe mal, il aura des difficultés à se confier sur le sujet parce qu'il aura trouvé que ses parents étaient trop intrusifs sur un sujet qui est de l'ordre de l'intime. Moi, j'aimerais pas qu'on vienne constamment me questionner sur ma sexualité. Ça m'agacerait. Voilà. Par rapport à ça, il y a une notion essentielle, c'est que moi, je ne suis absolument pas pour que, lorsque l'adolescent est en couple, je suis d'accord pour qu'on reçoive son petit ami ou sa petite amie à la maison, mais je ne suis pas pour qu'il partage le même lit sous notre toit. Parce que c'est rendre, en fait, de façon indirecte, les parents témoins de la sexualité de leur adolescent. Et parfois, on va avoir des attitudes qu'on pense sympathiques, mais elles vont être, en fait, problématiques. C'est-à-dire que, au moment où les deux ados vont se lever, par exemple, après le film, en disant « on va se coucher », on va les regarder d'un air entendu. Et ça veut dire que quand on fait ça, quand on les regarde d'un air entendu, on s'introduit dans leur sexualité. Et on n'a pas à le faire. Mais parfois, alors ça encore, ça reste bon enfant, hein, de les regarder d'un air entendu, mais ça peut quand même les complexer ou en tout cas les inhiber un peu, ils vont être mal à l'aise. Ça, c'est au mieux. Au pire, on leur dit, ne faites pas de bêtises. Mais faire l'amour, c'est pas faire une bêtise. Donc, on va mettre une connotation négative sur quelque chose de très naturel. Ça, c'est problématique pour moi. Donc, moi, je me dis, ils vont trouver. C'est-à-dire que s'ils doivent le faire, ils trouveront le moment. Ils trouveront l'endroit pour le faire, et on n'a pas forcément besoin, nous, adultes, de favoriser ça, parce que j'aimerais qu'ils fassent un peu appel à leur imagination. Que ce soit pas facile, que ce soit pas donné comme ça, il faut qu'ils fassent travailler un peu leur tête, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils aient la conviction de leur désir, et puis le courage de leur désir. Donc c'est important, il me semble. Alors comment parler de tout ça avec l'adolescent ? Souvent, le dialogue va être bloqué, et moi, je trouve ça regrettable, parce que ils ont un vrai désir pourtant d'en parler, tout en étant très pudiques sur le sujet. C'est évident qu'il y a des tabous autour de la sexualité, et ce sont ces tabous-là qui vont parfois gêner le discours. Donc, c'est important de ne pas leur faire part de notre propre expérience sexuelle. Il faut savoir que pour un ado, alors notre expérience, elle n'est pas secrète, mais elle doit rester discrète. Pour un adolescent, il a un père et une mère, et son père et sa mère ne sont pas un homme et pas une femme, en fait. C'est juste un père et une mère. Ça veut dire que si c'était un homme et une femme, ils auraient une sexualité. Pour l'ado, non, il veut pas le savoir. C'est-à-dire qu'il est pas idiot, il sait comment on fait les bébés, si on l'a informé sur le sujet. Donc, il sait bien comment il est arrivé. Mais ça ne l'intéresse pas. Et même l'idée même de penser à la sexualité de ses parents pourrait même le dégoûter. Donc on ne lui fait pas part de notre propre sexualité parce que, au mieux, vous allez le dégoûter. Au pire, vous allez l'angoisser avec votre sexualité. Il ne veut pas savoir. Ça n'intéresse pas. Donc on ne lui parle pas de la nôtre, déjà. On peut profiter, par exemple, d'une émission. Il y a des émissions qui passent à la télévision, qui parlent de sexualité. On peut profiter d'une émission. Moi, je pense que c'est un bon moment pour partager déjà un moment ensemble, mais je pense que c'est vraiment un bon moment pour pouvoir parler de ça. Et on va parler de la sexualité de façon générale. Pas de la sienne en particulier, mais de façon générale. Du premier rapport sexuel, ça va être le moment de pouvoir parler, par exemple, de la contraception, des maladies sexuellement transmissibles. On va faire en sorte de parler de ça sans s'affoler. Hein. Quand on va lui parler des maladies sexuellement transmissibles, on va essayer de pas lui foutre trop la trouille et pas le frustrer et pas l'angoisser sur le fait que peut-être avec la sexualité, il pourrait se passer des choses horribles. Donc on va essayer de déculpabiliser, de pas s'affoler et on va surtout respecter sa pudeur. C'est-à-dire que parfois l'ado a envie d'en parler avec vous, la discussion va s'enclencher, il va se sentir mal à l'aise et puis il va vouloir mettre un terme rapidement à la discussion. Il va avoir pris l'essentiel dans ce que vous aurez dit. Et moi, j'ai remarqué que, et vous avez dû vous en rendre compte aussi, que les adolescents sont plus pudiques que les enfants sur la sexualité, parce qu'ils sont plus pudiques avec leur corps aussi. S'ils sont, par exemple, dans le salon, en train de regarder un film avec leurs parents, il suffit qu'un couple s'embrasse à l'écran pour qu'ils soient gênés. Rien que ça, des fois. Ils rougissent, ils détournent le regard, genre ils se lèvent, ils vont aux toilettes, genre j'ai soif. Ils reviennent quand la scène est terminée et ils reprennent le fil du film. Et en fait, il y a une vraie pudeur là-dessus. Et je pense que c'est vraiment essentiel de ne pas aller à l'encontre de cette pudeur-là parce que ça pourrait les mettre extrêmement mal à l'aise. Ils peuvent nous surprendre par rapport à ça parce qu'ils peuvent avoir un langage très cru entre eux sur la sexualité, mais quand il est question d'en parler avec des adultes, il y a une pudeur qui s'installe. On fait en sorte de ne pas être trop intrusif parce que ça pourrait créer de l'inhibition chez l'ado et biaiser sa sexualité future et elle ne serait pas épanouie. On ne titille pas l'adolescent sur ses amours et ses transformations pubertaires. Donc on ne va pas se moquer de lui quand il a la voix qui mue, on ne se moque pas de sa poitrine. Moi, je me souviens d'un de mes oncles qui avait eu une parole un peu malheureuse à ce sujet, moi qui étais déjà complexée par ma poitrine, un jour où, avec ma famille, on allait rendre visite à mon oncle et ma tante, au moment où il m'a serré dans les bras pour me dire bonjour, il m'a tâté le dos. Et il m'a fait une remarque que j'ai, vous voyez, j'ai 40 ans et j'ai pas oublié. Et à l'époque, je devais avoir quoi, 14, 15 ans, et en me tâtant le dos, il m'a dit, c'est que t'as pas de poitrine ou tu me tournes le dos? À 40 ans, je m'en souviens encore, c'est vous dire. J'avais moyennement apprécié et je lui ai fait la tête tout le week-end à cause de ça parce que j'avais trouvé ça assez déplacé et très vexant. Donc, on ne joue pas avec ça par rapport à l'adolescent parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne mesure pas l'intensité de leurs complexes qu'ils peuvent avoir par rapport à ça et la souffrance que ça peut être pour eux. Et on ne devrait pas leur faire passer ces choses-là comme étant quelque chose qui pourrait amener de la honte pour eux parce que c'est pas honteux, ça pourrait les stresser et ils n'ont pas à être stressés avec ça. On ne fait pas référence à nos propres expériences sexuelles, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un modèle unique de sexualité, et si on faisait référence à nos propres expériences, bonnes ou mauvaises, en fait, on viendrait empêcher l'imaginaire de l'adolescent et on viendrait plaquer, en fait, dans sa sexualité, un modèle unique. Il doit se faire son propre modèle sur sa sexualité. C'est tout le problème des films pornographiques, par exemple. La pornographie, elle va plaquer un modèle. C'est-à-dire que quel que soit le film, c'est toujours plus ou moins les mêmes scènes, on ne change que les acteurs, et c'est très ritualisé, on dit tu fais comme ça, on filme telle scène, on veut que tu fasses comme ça, et puis on veut que là il se passe ça. Et en fait, on n'est pas comme ça en réalité dans notre sexualité. Si parmi vous, vous adultes, vous avez regardé des films pornographiques, vous savez bien qu'en réalité, c'est pas la sexualité que vous avez. Et en fait, c'est tout le problème de la pornographie, c'est qu'elle va venir plaquer comme ça un modèle, et elle va en fait stopper l'imaginaire de l'adolescent. Et puis, ça va créer un décalage, du coup, hein, entre ce qu'ils voient, ce qu'ils veulent faire et la réalité de ce qu'ils vivent. Moi, j'entends parfois des adolescents dans mon bureau, garçons, hein, me dire « Ouais, ma copine, elle a pas aimé du tout, alors que moi, quand je regardais dans les films, les femmes, elles avaient l'air d'aimer. » Ah ouais, mais c'est un film. Donc, il comprenait pas que sa copine à lui, elle trouve pas ça génial comme pratique, alors que dans le film, la fille, ça avait l'air de lui plaire, quoi. Donc, après, il faut déconstruire ce modèle-là en expliquant que on peut pas faire l'amour de la même façon avec tous les partenaires. Donc, ça, c'est essentiel aussi. L'ado a besoin de poser des questions, il a besoin d'être écouté, il a besoin aussi que tout ça se fasse sans jugement. C'est-à-dire que c'est important de ne pas signifier que ce qu'il en pense, ce qu'il en dit, est bon ou mauvais, parce que on pourrait aussi transmettre un message sur la sexualité qui serait négatif. Mais c'est important aussi de transmettre un message sur la sexualité qui tient compte aussi des sentiments. Oui. C'est important de leur parler de sexualité en leur parlant aussi de tendresse, en leur parlant de sentiments, et de pas juste parler que de l'aspect physique de la sexualité, mais de parler aussi du fait qu'elle s'accompagne pour la majorité des fois de sentiments affectueux, de sentiments d'amour, de complicité, de tendresse, et que c'est essentiel aussi que ça aille avec. On va pas stigmatiser et voir d'un mauvais œil les expériences ou les relations de passage, mais c'est important de rappeler quand même que une sexualité épanouie, elle se fait aussi dans le temps. Elle se fait aussi à travers la complicité et l'affection que l'on a avec quelqu'un. Que plus on le fait avec une personne, et mieux c'est. Parce que mieux on se connaît. Alors on a le droit, hein, d'avoir des expériences de passage, des relations de passage. Mais je pense que c'est quand même toujours essentiel de rappeler qu'il y a une valeur aussi de sentiment au-delà de la sexualité. C'est ce qui nous différencie aussi des autres mammifères. C'est que notre sexualité, elle est aussi, elle peut être mécanique, biologique, et elle est aussi pour la survie de notre espèce. Enfin, le fait de, on n'est quand même pas l'espèce la plus menacée, hein, ça c'est clair. Mais que ça fait partie aussi justement du fait de la survie de l'espèce. Mais que ce qui nous différencie des autres mammifères, c'est que dans la nôtre, il y a aussi cette notion de sentiment. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres espèces. On n'est pas obligé de faire l'amour en étant amoureux, mais on le fait aussi parce qu'on est amoureux. Et qu'on a envie de ça aussi parce qu'on s'aime et que ça crée un désir. Donc ça, c'est essentiel. Le comportement aussi, et je vais terminer là-dessus, avant de pouvoir vous donner la parole et pouvoir écouter vos questions, le comportement du couple parental a une incidence aussi sur la façon dont l'adolescent va envisager la sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, ça va lui servir de modèle sur des signes extérieurs d'attachement. C'est-à-dire que quand il voit, par exemple, ses parents se parler avec respect, se manifester du respect, s'embrasser quand ils se retrouvent le soir, il va avoir l'idée que la sexualité de ses parents est vécue d'une façon épanouissante et qu'elle resserre les liens amoureux. S'il observe l'inverse, s'il observe des parents qui se manquent de respect, des parents qui n'ont pas de signes extérieurs d'attachement, comme le fait de se tenir la main, de se caresser la joue ou de s'embrasser quand on se retrouve, il va avoir le sentiment qu'il n'y a pas de sexualité entre ses parents, ou alors qu'elle n'est pas une bonne sexualité, qu'elle est insatisfaisante. Et du coup, ça va parfois brider les pulsions sexuelles de l'adolescent lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il va observer a une incidence aussi sur la façon dont il envisagera aussi sa relation à l'autre et la sexualité à l'autre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bien. Donc, si vous avez des questions, on va devoir faire circuler le micro pour aller de vous à moi. Donc, je vous écoute.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bah, moi, je vais poser une question alors. Sauf s'il y a des gens qui sont... Ah bah allez-y.
Juste, j'ai été étonnée d'entendre dire que les parents d'aujourd'hui étaient encore gênés pour parler de sexualité à leurs enfants. Ça m'a vraiment étonnée parce que j'ai l'impression de voir, d'entendre mes parents. Voilà, et que ça existe encore aujourd'hui. Voilà, c'est tout.
La réponse de Sandra Massé.
Je vais essayer de répondre. Oui, les parents d'aujourd'hui sont encore gênés avec ce sujet parce que on touche à l'intime de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que parler de sexualité avec son adolescent, c'est rentrer dans la vie intime d'un autre et que on est parfois nous-mêmes, en tant qu'adultes, gênés pour parler de la nôtre, déjà. Vous avez remarqué qu'en réalité, l'adulte peut facilement, souvent parler de sexualité, mais avec des gens avec qui il ne le fait pas. Avec les amis, par exemple. Mais que parler de sexualité au sein de son propre couple, c'est-à-dire qu'on parle moins de sexualité avec notre partenaire sexuel qu'avec des gens avec qui on ne le pratique pas. Et donc du coup, aller parler de la sexualité avec son adolescent, c'est parfois extrêmement problématique parce qu'on sait qu'on rentre dans le domaine de l'intime de quelqu'un d'autre. Et que du coup, ça peut amener effectivement une certaine gêne. On a peur aussi de ne pas savoir quoi dire, on a peur de ne pas pouvoir répondre à ses questions, on a peur aussi de ses questions. On a peur d'être surpris par certaines de ces questions et de se sentir mal à l'aise. Moi, je pense que quand on doit parler de sexualité avec son adolescent, on ne doit pas imaginer qu'on peut avoir toutes les réponses. on doit pouvoir aussi lui demander quel est son point de vue sur sa propre question. Parce qu'en réalité, quand ils nous posent des questions, ils ont déjà essayé d'élaborer une réponse dans leur tête. Et moi, je pense que c'est toujours intéressant de lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi, toi, ton idée, là, par rapport à ce que tu me demandes? Quelle est ta vision à toi des choses? Parce que ça lui permettrait aussi de mieux construire sa propre vision des choses et pas attendre forcément d'avoir notre propre regard sur les choses. Et lui dire, écoute, moi, j'ai pas forcément de réponse à ta question. Si tu veux, on peut y réfléchir ensemble. Ou, fais-moi part, toi, de ce que tu en penses. Et après, on va effectivement ajuster son discours en fonction de ce qu'il dit. Mais dès que ça touche à l'intime, c'est compliqué. Et donc ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que on a beau avoir eu, je pense qu'à l'école, il y a des cours sur la reproduction, mais en réalité il n'y a pas de cours sur la sexualité. On parle de l'appareil génital masculin, l'appareil génital féminin. On parle de comment effectivement se fait la reproduction, mais on ne parle pas de sexualité. En réalité, c'est un sujet dont on parle très peu. On en parle beaucoup et en même temps on en parle peu. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup mais on n'en dit pas grand-chose. Moi j'entends effectivement, on en parle, mais qu'est-ce qu'on en dit? Toujours les mêmes choses. On n'approfondit pas ce sujet-là. C'est toujours un sujet qui reste tabou et c'est problématique, je trouve, du coup. Je pense qu'il est plus facile aussi de pouvoir parler avec son adolescent de sexualité quand on a parlé avec lui depuis tout petit de plein de sujets. Si vous avez l'habitude de discuter avec votre enfant depuis qu'il est tout petit, de tout, de rien, le jour où vous aurez un sujet plus important à aborder, vous serez plus en confiance et lui aussi. Ce sera plus facile, en fait, en termes de communication. C'est-à-dire que la communication, elle commence pas à l'adolescence avec son enfant. Il faut qu'elle commence tôt avec lui, à pouvoir parler de plein de choses. Du coup, des sujets plus importants comme la sexualité ou d'autres seront plus facilement accessibles, en fait. Oui. Est-ce que ça répond à votre question?
Question suivante. Qui a levé la main? Non, personne? Ah, pardon. Oh là là, si je regarde pas à gauche.
Alors moi j'ai une fille qui va avoir 14 ans et on a déjà abordé le sujet, c'est elle qui est venue vers moi, parce qu'elle a un petit copain depuis un mois, et m'a dit « Maman, voilà, qu'est-ce que tu penses de la sexualité? Quand est-ce que je vais pouvoir avoir l'âge de pouvoir le faire ?» Son petit copain a 16 ans. Alors elle me dit « Moi de toute façon, ce sera pas avant 15 ans et demi. » C'est ça. Alors voilà, c'est l'âge. Elle me dit pas avant 15 ans et demi. Alors je me dis, pourquoi elle me dit ça, quoi?
C'est parce que la majorité sexuelle est à 15 ans.
Alors à quel âge on peut faire l'amour?
Quand on est prêt, j'allais vous répondre en fait. C'est-à-dire que votre fille, elle a 14 ans, elle vous dit 15 ans et demi parce que autant pour nous adultes, un an et demi, ça ne change pas grand-chose, autant pour elle, ça peut tout changer. C'est-à-dire qu'elle essaie de s'imaginer dans un an et demi ou deux comment elle sera et elle imagine peut-être qu'elle sera prête à ce moment-là, qu'elle sera plus mature pour ça et que se donner cette date, c'est lui permettre aussi de se rassurer sur le fait d'attendre. Elle se donne un objectif, c'est-à-dire qu'elle se dit pas avant cet âge-là, comme ça elle se tient à ça pour pouvoir ne pas culpabiliser de se donner du temps pour attendre. Parce que elle peut avoir, puisque son copain est un petit peu plus vieux qu'elle, il a 16 ans, il peut lui en avoir déjà parlé, elle peut s'être sentie un peu stressée quand il lui en a parlé, de se dire « mais je suis pas prête », et du coup se donner une date. Moi je me le disais aussi, hein, quand j'étais adolescente, je me disais pas avant 17 ans. Voilà, je me disais pas avant 17 ans parce que je pense qu'en fait, au fond, je sais pas pourquoi je m'étais donné cette date, mais je crois qu'en réalité, je me donnais le temps d'apprendre, le temps de comprendre, le temps de construire mon idée de la sexualité, le temps aussi de me sentir prête pour ça. C'est-à-dire que j'en avais envie plus tôt, avant 17 ans j'en avais envie, mais je me sentais pas prête. J'avais peur, j'étais inquiète de ce qui pouvait se passer et que je m'étais fait dans l'idée que à 17 ans je serais suffisamment mature pour ça. Après, vous allez avoir des adolescents qui, à 16 ans, vont être suffisamment matures pour ça, d'autres à 15 ans vont être suffisamment matures pour ça, puis d'autres à 18 ans ne le sont pas encore.
Est-ce que nous, en tant que parents, quand elle me dit 15 ans et demi, je dis, mais à 15 ans et demi, peut-être que tu n'auras pas de copain déjà. Peut-être que ce sera plus le même qu'aujourd'hui. Donc, je dis vraiment, pour commencer à en parler, il faut que ce soit sérieux avec ton copain. Est-ce qu'on peut, nous, en tant que parents, se dire, faut que ce soit sérieux avec son copain, ou est-ce que non, on ne peut pas porter de jugement et peut-être que ça se passera comme ça, quoi?
Je suis assez d'accord avec le fait qu'on peut pas porter de jugement. En fait, je pense que c'est pas une question que ce soit sérieux ou pas avec son copain. C'est là vraiment la question, c'est qu'elle soit prête pour ça. C'est que votre enfant soit prêt pour ça. Il y avait un témoignage qui disait tout à l'heure qu'on le fait aussi parce que on aurait l'exclusivité de dire qu'on l'a fait ou parce que les autres l'ont fait. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, certaines de mes amies l'avaient déjà fait et pas moi. On en discutait entre filles de ça. Et puis des fois, elles parlaient de certaines choses. Et puis alors moi, j'étais complètement à côté de la plaque, j'étais trop innocente, j'en sais rien, ou trop naïve. Et je disais ah bon, on peut faire ça. Et en fait, l'une d'entre elles, qui était un petit peu plus vieille que nous, qui avait redoublé, elle avait une pratique un peu plus régulière de la sexualité. Et elle me disait mais Sandra, mais tu m'hallucines quoi. Et elle trouvait ça vachement mignon. Elle me disait change pas, t'es encore innocente, c'est bien. Elle regrettait de l'avoir fait trop tôt parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas prête pour ça. Et du coup, je pense que ça m'avait aussi l'expérience qu'elle en avait m'avait aussi entretenue dans l'idée que ce serait pas avant 17 ans parce que j'entendais les regrets qu'elle avait. Elle regrettait pas en fait le garçon avec qui elle l'avait fait. Elle regrettait de l'avoir fait si tôt. Et moi, je me disais, Sandra, tu attendras d'être prête. Mais en réalité, je crois qu'on ne l'est jamais vraiment, en fait. On pense pouvoir l'être à un moment donné, mais on flippera quand même toujours la première fois. On l'est sans l'être vraiment. Donc, mais on sent quand on est plus prêt à ça. Donc, il n'y a pas à porter de jugement sur sa décision à 15 ans et demi, parce que vous lui avez très bien dit, elle n'aura peut-être pas de copain, elle en aura peut-être changé. Ou alors, à 15 ans et demi, elle repoussera encore un peu l'échéance si elle n'est pas prête, en se disant, ouais, enfin, plutôt 16 ou plutôt 17. Voilà. Et si elle se sent prête, elle se dira, bon, bah, j'avais décidé que c'était maintenant et je vais le faire. Ça la regarde en réalité. Ce qui est important, ce qui vous regarde vous, c'est qu'elle ne se mette pas en danger en le faisant, que ce soit dans le respect de sa propre personne, dans le respect de l'autre aussi, qu'on ait du respect envers elle, qu'elle prenne pas de risques par rapport à la contraception ou autre. Ça, c'est votre boulot à vous, c'est de les informer là-dessus, sur les risques de maladie, sur les besoins d'un contraceptif, sur le fait aussi de pas se trahir soi-même et de pas se compromettre dans une relation sexuelle avec quelqu'un. Moi, je pense que c'est essentiel de leur parler de la notion de respect de soi, des risques que l'on court, mais c'est pas à nous de décider pour eux à quel moment ils sont prêts ou pas, ça ne regarde qu'eux.
Donc, quelque part, c'est rassurant pour l'adolescent parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de question d'âge, même si on le fait plus tôt encore, avant 14, voire 13. Parce qu'on peut se dire, nous, en tant que parents, bah, si on apprend ça, disons, tu l'as fait vraiment trop tôt, donc on les culpabilise à mort. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de question d'âge, alors. C'est ma question, en fait.
C'est pas qu'il n'y a pas une question d'âge, c'est-à-dire que vous me diriez que votre adolescente à 12 ans, elle l'a fait, je me dis qu'elle n'est pas mature pour ça, ça veut dire qu'elle est physiquement mature parce qu'elle a un corps pubère pour pouvoir le faire, mais psychiquement elle ne l'est pas. Il y a un décalage entre sa maturité physique, notre maturité physique et la puberté, et notre maturité psychique. Je pense que ça aussi, ça va dépendre de l'accompagnement qu'on a eu avec eux, et du fait aussi d'avoir pu, pour d'autres sujets, leur montrer qu'ils avaient un désir, mais qu'ils n'étaient pas prêts à l'assouvir. Il y a d'autres questions que la sexualité à l'adolescence. Ils vont désirer, je sais pas, par exemple, ils voudraient un tatouage. Si on est pour, tant mieux. Si on est contre, on va lui expliquer que cette décision-là, il la prendra plutôt pour lui quand il sera adulte, mais qu'il lui faut du temps pour y réfléchir, pour être qu'il soit sûr de lui, parce que ça l'engage, c'est à vie, un tatouage sur la peau. Voilà. Donc, il y a d'autres questions comme ça où on va expliquer aussi à son ado qu'il a le droit d'avoir le désir qu'il a, qu'on n'a pas à juger son désir, mais qu'il n'est peut-être pas prêt pour ce désir-là, alors il essaiera de vous expliquer qu'il l'est ou pas. Faudra aussi pouvoir, ce sera en fait au cas par cas, en fonction des arguments qu'ils ont. 12 ans, moi je vous le dis clairement, je pense que c'est bien trop tôt. Après, je parlais de puberté précoce tout à l'heure, il y a des adolescents à 13 ou 14 ans qui ont non seulement la maturité physique, mais ils ont même la maturité psychique qui l'accompagne. Ça veut dire qu'en fait, ils sont pas en décalage avec leur maturité psychique lorsqu'ils vont avoir des rapports sexuels à 14 ans. Ils ont un psychisme qui est tout à fait apte à pouvoir supporter l'impact que ça va avoir sur soi. Parce que c'est pas anodin, un acte sexuel. On s'en fait toute une idée, mais ça a un vrai impact sur notre vie. C'est-à-dire que ça change quelque chose. À un moment donné, on sait qu'on est rentré dans autre chose, qu'on n'est plus l'enfant que nous étions. On accède à quelque chose qui est une expérience nouvelle pour nous et qui va conditionner aussi certaines choses de notre avenir. Donc je pense que c'est important de pouvoir en discuter avec eux, de ne pas juger leurs désirs, mais de savoir aussi, quand parce qu'on les connaît, on sait s'ils sont encore un peu immatures ou pas, savoir leur faire entendre qu'ils sont encore peut-être un peu immatures pour ça, mais que ça viendra, qu'ils ne s'inquiètent pas, et qu'ils n'ont pas à se presser par rapport à ça. que ça vient en temps et en heure.
Une autre question.
Oui, dans votre discours tout à l'heure, qui était très intéressant, vous avez parlé du fait que l'adolescent ne doit pas avoir sa sexualité sous le même toit que ses parents. Alors que généralement, on entend plutôt les parents dire « Oui, mais faut, au moins, tant qu'ils sont là, ils font pas ça ailleurs, enfin, ou alors ils font pas ça n'importe où. » Donc moi, je suis un peu surprise de ce que vous avez dit, parce que bon, bien souvent, on voit qu'à partir de 18-20 ans, les ados vivent chez les parents, en couple, et que ça a tendance à arriver un petit peu plus tôt. Voilà.
En fait, moi, ce qui me pose problème dans le fait que ça va se pratiquer chez les parents, mais en leur absence. C'est-à-dire qu'ils vont profiter d'une occasion où les parents de l'un ou de l'autre ne sont pas là pour pouvoir peut-être avoir leur premier rapport sexuel. Ce qui m'embête, c'est que les parents soient présents et que du coup, ça nous rendrait indirectement témoins de la sexualité de notre adolescent, voire peut-être même voyeurs de cette sexualité-là, et que ça mettrait quelque chose dans leur sexualité qui n'a pas à être. C'est-à-dire qu'ils seraient dans une chambre, la porte fermée, mais enfin, une porte, ça ne suffit pas pour cacher une intimité. On entend des choses, ça pourrait ou les inhiber, ou les frustrer, ou même générer une gêne chez eux, et puis chez nous aussi, si c'est pour se regarder, à peine se regarder le lendemain matin parce qu'on a été témoin ou entendu des choses, et qu'on n'ose même plus se regarder en se disant « Oh là là, ma mère a entendu !» Moi, je pense que c'est réellement problématique, en fait. C'est pas simple de leur expliquer. Oui, c'est pas simple de leur expliquer qu'on peut pas vivre en couple dès 16 ans, mais je pense que quand vous disiez oui, les parents, ils disent qu'ils préfèrent que ce soit chez eux, bah bien sûr que les parents préfèrent, ça les rassure, mais c'est pas parce que c'est à l'avantage des parents et que ça les rassure eux que c'est à l'avantage de leur adolescent. Enfin, c'est comme le téléphone portable. Hein. Voilà, qui est-ce que ça rassure le téléphone portable ? Ça rassure le parent qui est persuadé qu'il va pouvoir fliquer son gosse partout où il ira. Moi, je les entends dans le bus. Hein. Il y a pas longtemps, je prenais le bus et j'entendais une adolescente dire à sa mère « Ouais, ouais, je suis à l'arrêt du lac. » Pas du tout, elle était à la gare de Tours. Mais sa mère devait être rassurée au bout du fil. Elle a dû dire « Ah ouais, cool, bon bah c'est bien. » En fait, c'est surtout que c'est à l'avantage des parents, pas à l'avantage de l'adolescent. Et c'est ça, en fait, moi, qui me pose problème. C'est que du coup, ça rassure le parent, mais ça ne va pas, ça n'est pas dans le respect de l'ado, dans le respect de son intimité, de sa vie sexuelle, qui n'appartient qu'à lui. Et on n'a pas, nous, à être témoins de ça. Parce que cette sexualité adolescente, elle est les prémices d'une sexualité adulte, mais elle n'est pas encore une sexualité adulte. Et nous, on va forcément regarder ça avec un regard qu'est le nôtre. Et ce regard-là, il peut mettre des choses dans la sexualité d'un ado qu'il n'est pas en âge de pouvoir appréhender, de pouvoir comprendre, de pouvoir gérer. Donc pour éviter effectivement que ces deux sexualités s'entrechoquent, elles n'ont pas à se rencontrer.
Y a-t-il des questions ? Oui.
Non, bah moi en fait j'ai un gros souci là-dessus, hein. parce que j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose qui est vachement banalisé au jour d'aujourd'hui, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, déjà. Au niveau des jeunes, quoi, avec tout ce qu'on voit à la télé, je trouve qu'il y a une espèce d'anarchie faite là-dessus qui est pour moi déplacée. Parce que j'en avais pas du tout une vision comme ça, quoi. Moi, pour moi, déjà mes parents, voilà, moi, mon père, pour lui, j'ai piqué ma fille dans la clinique. Hein. C'est super tabou, quoi. C'est quoi, moi, en tous les cas, rien que le fait qu'il y ait ma mère à côté, là, je suis super mal à l'aise, quoi. Ah bah ça, c'est sûr, ma mère n'a pas de problème. Mais. Mais alors moi, ça me. Ah bah oui, mais moi, ma mère, elle a pas besoin de savoir, quoi, je sais pas. Pardon, micro.
Moi, c'est pareil, j'ai pas du tout envie de parler à ma fille de ma sexualité, de mon intimité, comme vous parliez tout à l'heure, de mes envies, de mes désirs. Enfin, moi, pour moi, c'était très beau. Oui, déjà, ce que je veux dire, c'est que même pour moi, c'est traumatisant. En tant que parent, j'aimerais pas du tout, quoi. On parle d'un point de vue général, c'est vrai. Mais j'aimerais pas, je vois pas à quoi ça servirait, quoi.
Vous voulez ajouter quelque chose? Vous disiez qu'effectivement, vous trouvez que c'est vachement plus banalisé. Alors oui, en fait, enfin, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est beaucoup plus banalisé dans le sens où l'accès à la sexualité se fait, ou en tout cas à des images de sexualité, se fait beaucoup plus facilement qu'avant. On a des outils comme l'Internet, ils ont leur téléphone portable, ils ont un accès à Internet dessus. Les sites pornographiques, on peut y accéder en deux clics. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est quand même un peu fou, c'est que sur ces sites porno, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, qu'un adolescent de 16 ans ne sait pas lire s'il est mineur ou pas, et que si vous êtes majeur, cliquez sur « j'accepte » ou « entrez », ou si vous n'êtes pas, cliquez sur « je refuse », bah il va pas cliquer sur « je refuse ». Enfin, ça me semble assez évident, donc le contrôle est mal fait là-dessus. Mais c'est pas parce qu'ils y accèdent plus facilement, c'est pas parce qu'ils en parlent plus facilement, c'est pas parce qu'en fait c'est devenu plus commun que psychiquement ça a changé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un temps de maturation pour ça. C'est-à-dire qu'avant la puberté, les enfants n'y pensent. Il y a une sexualité infantile qui est propre à l'enfant, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la phase de latence entre l'enfance et l'adolescence. Et dans cette phase de latence, c'est quelques années où la sexualité n'est plus du tout dans la tête de l'enfant. Entre 8 et à peu près 8 ans, hein, c'est une moyenne, hein. Entre 8 ans et le moment où il va rentrer dans la puberté, il n'y pense plus du tout. Il n'est plus du tout axé là-dessus. Il est axé sur les performances scolaires, les apprentissages. C'est l'enfant quasi idéal à ce moment-là. Puis à l'adolescence, il redevient celui qu'il était avant la phase de latence, moins idéal. Mais et là revient la sexualité. Elle ressurgit, elle fait un peu effraction comme ça dans la vie de l'ado. Et il va falloir un temps pour pouvoir mûrir ça, pour pouvoir l'appréhender. Ce temps-là, il va changer d'un adolescent à l'autre. Mais il y a toujours une période de maturation pour ça. C'est-à-dire qu'entre le moment où il le pense pour la première fois et le moment où il passe à l'acte, c'est pas immédiat. Il y a toujours un décalage entre les premières pensées associées à la sexualité, les premiers mouvements ou comportements sexuels qu'on va avoir avec soi et le moment où on va le faire avec quelqu'un. Mais d'un adolescent à l'autre, ça dépend aussi de la vie de cet adolescent. Ça veut dire qu'il y a des adolescents qui, à 15 ans, sont plus matures que d'autres à 17. Ça dépend de leurs expériences de vie, de la famille dans laquelle ils sont, de la culture dans laquelle ils grandissent, de l'éducation qu'ils reçoivent. Tout ça, ça va jouer. Alors, c'est vrai, tout est plus accessible aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça l'est plus dans leur tête. Ils se questionnent quand même toujours autant qu'avant. Les témoignages qui ont été lus vous montrent que la façon dont c'était abordé par une femme de 48 ans, eh bien, en réalité, c'est pas très éloigné de la façon dont l'adolescent l'aborde aujourd'hui. Et que, moi, c'est ce qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu tous les témoignages. Je les ai tous lus. De voir que pour une jeune fille une adolescente de 16 ou 17 ou 18 ans et que cette femme de 48 ans, il y avait pas vraiment de différence sur la façon dont elle l'avait vécu, elle, 20 ou 30 ans auparavant. C'est-à-dire que son expérience à elle, elle datait de 30 ans auparavant et elle était très similaire à celle de cette adolescente d'aujourd'hui. Donc ça reste assez commun. Il n'y a pas 36 façons de le vivre. Hein. Ah non, il n'y a pas 36 façons de le vivre. Les époques changent, les outils changent, mais la psychologie humaine, elle évolue plus lentement que les époques et les outils. Eh oui. Eh oui. Ce qui fait que des fois, on est un peu dépassé, justement, par les outils et l'époque. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question?
À quel âge on est adulte?
Alors déjà, effectivement... Alors, à quel âge on est adulte? Je vais vous dire, en fait, je pense que c'est pas une question d'âge, c'est une question, là encore une fois, de maturité. Comme je le disais en plaisantant, il y en a 40, ils ne le sont toujours pas. Je pense qu'en fait, on devient adulte quand on devient autonome et indépendant. Quand on devient responsable de soi-même. Quand on applique, en fait, ses propres lois, que l'on fait soi-même, qu'on les applique soi-même indépendamment des autres, tout en respectant les lois et la liberté des autres. C'est le moment où, pour moi, on est adulte. Voilà. C'est ça, en fait, pour moi, qui symbolise l'âge adulte. C'est l'autonomie, l'indépendance, la capacité à exercer, à établir ses propres règles, à respecter ses propres règles en respectant celles des autres. Ça veut dire que quelqu'un qui a 30 ans, qui ne serait pas autonome, pas indépendant, qui n'est pas capable de respecter les libertés d'autrui, je ne le considère pas comme quelqu'un d'adulte. Il n'est pas mature. Il est adulte en âge, mais il n'est pas adulte dans sa psychologie. Un adolescent de 16 ans qui va avoir compris, qui a de l'autonomie, qui a de l'indépendance, qui est capable effectivement d'établir ses propres règles, de les faire respecter en toute indépendance et qui respecte aussi les règles des autres et la liberté des autres, me semble déjà plus adulte. Donc en fait, c'est ça pour moi. Ce qui est symbole de ce qu'est être adulte, c'est l'autonomie, l'indépendance. Est-ce que ça répond à votre question ?
Oui.
Bah moi, j'avais une question. Je reviens sur le sujet d'avant. Effectivement, en tant qu'animateur, on constate qu'ils ont facilement accès à la pornographie. J'entends par « ils » les adolescents qu'on accueille, et ce, dès qu'ils ont un téléphone en main. C'est vrai qu'on rentre beaucoup dans la vidéo en considérant que c'est très mauvais. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir notamment l'image de la femme à travers ces vidéos, qu'elles soient amateurs ou professionnelles. Néanmoins, y aurait-il des bons côtés à ces vidéos, car les garçons les regardent beaucoup, mais les filles, de plus en plus, et s'en servent, alors non pas de modèle, mais en tout cas, il y a comme une fille, il y a une espèce de... On le regarde comme des tutoriels, comme comment apprendre à faire l'amour. Est-ce qu'il y aurait des bons côtés à ces vidéos ?
Je vais vous répondre sur la pornographie, comme en fait, je vais vous répondre de façon générale pour l'image, en général. Je considère qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise image. Il y en a certaines qui peuvent être violentes, mais en réalité, ce qui pose problème avec l'image, ce n'est pas l'image elle-même, c'est l'accompagnement de cette image. Ça veut dire qu'en fait, un ado qui va être confronté à de la pornographie, qui va avoir accès à la pornographie, si c'est accompagné, si c'est décrypté, s'il peut mettre des mots sur ce qu'il ressent quand il le voit, s'il peut en parler avec quelqu'un, avec un adulte entre autres, ça ne sera pas une mauvaise chose pour lui parce qu'il va pouvoir dire ses ressentis, ses observations, son analyse de ce qu'il a vu. Le problème, en fait, c'est quand c'est vécu seul, quand ça génère peut-être quelque chose de l'ordre d'un questionnement auquel il n'y aura pas de réponse, si ça génère de la gêne, si ça génère quelque chose, je ne sais pas, par exemple, si on trouve ça dégoûtant et qu'on va avoir personne à qui le dire. C'est tout le problème de l'image pour moi. C'est-à-dire que, et la pornographie en fait partie, en fait, comme les films qu'on considérerait violents ou les jeux vidéo qu'on va considérer violents. Est-ce que réellement ce qui pose problème, c'est le support ou le manque d'accompagnement de ces supports-là? Je peux comprendre qu'effectivement, certains adolescents vont regarder certains films pornographiques d'une façon, oui, comme vous le disiez, un peu comme un tutoriel, un truc où avant on lisait des livres sur la sexualité, bon ben aujourd'hui on regarde un truc sur la sexualité, puis on se dit, ah ben c'est peut-être effectivement, oui, plutôt comme ça. Ils vont pas forcément le regarder avec le désir de s'exciter devant le film, ils peuvent le regarder comme quelque chose qui leur permettrait d'accéder à une pratique qu'ils n'ont pas et de se donner une idée de cette pratique. Le problème, je vous dis, qui moi me pose problème, c'est quand c'est pas accompagné ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la violence des images et des images violentes. Les images violentes, elles sont définies comme étant violentes et on le sait quand on les regarde. La violence des images, c'est une image qui peut ne pas paraître violente, mais qui va générer une émotion forte chez un enfant ou un adolescent. Et si cette image-là n'est pas accompagnée, s'il n'y a pas de discours dessus, ça peut alors générer effectivement de mauvaises choses. Ça veut dire qu'on peut prendre pour argent comptant ce qu'on voit, on peut le vivre d'une façon traumatisante, on ne va pas avoir pu exprimer son sentiment là-dessus. C'est ça qui est plutôt problématique. Par contre, effectivement, quand la pornographie surgit trop tôt dans la vie d'un adolescent, elle peut être extrêmement traumatisante, parce que je vous parlais tout à l'heure du décalage entre son physique et sa psychologie. Quand ça fait effraction trop tôt dans la vie d'un enfant, la sexualité, ça peut générer des traumatismes toute une vie. Hein. C'est pour ça que c'est important. Moi, je suis contente quand vous me dites que vous le savez qu'ils en voient, et que, du coup, ça veut dire qu'ils vous en parlent. Sinon, et vous pouvez échanger avec eux autour de ça. Je trouve ça très bien qu'ils aient des adultes avec lesquels ils peuvent échanger là-dessus. Tant pis si c'est pas leurs parents, du moment qu'ils ont un interlocuteur. C'est un cas minoritaire, c'est-à-dire. Oui, ils n'ont pas tous l'occasion d'en parler, je suis d'accord. Mais du coup, s'ils peuvent trouver quelques personnes avec qui le faire, c'est déjà bien. Donc le problème de la pornographie, c'est qu'elle n'est pas accompagnée. Si on faisait une éducation à l'image, depuis leur plus jeune âge, chez les enfants, si on leur expliquait comment, par exemple, c'est tout bête, hein, mais comment se monte un film, ce qu'on voit à la télévision n'est pas forcément, contrairement à ce qu'elle prétend, la réalité. C'est un antagonisme incroyable, la télé-réalité, quand on y pense. Comment ça peut être de la réalité quand c'est de la télévision? Si on leur expliquait que la caméra est positionnée à un endroit précis parce qu'on cherche à filmer quelque chose de précis, si on leur permettait de pouvoir faire des découpages d'une image, de la remonter autrement, ils comprendraient alors que tout ça, c'est de l'image qui est construite et que ça n'est pas la réalité. Et du coup, ils auraient plus de recul sur ce qu'ils voient. Mais on a quand même des gouvernements qui nous disent qu'il faut protéger l'enfant de l'image, il faut l'éduquer à l'image. Mais oui, mais sauf que les programmes en fait prévus pour ça, ils ne sont pas réellement développés autant qu'ils le devraient. Pourquoi ? Parce que si vous avez devant une télévision quelqu'un qui est capable de décrypter ce qu'il voit, il va moins adhérer au discours qu'il entend. Donc à la fois, on dit qu'il faut protéger l'enfant de l'image, mais il ne faudrait pas qu'il sache trop le faire, parce que sinon, il ne sera pas influençable par des discours. La pornographie en fait partie aussi. Hein. C'est-à-dire que tout le travail sur l'image, moi, me semble essentiel pour pouvoir gérer effectivement une image violente, un discours, les actualités, la pornographie, Mais on n'est pas assez éduqué à l'image. Il y a pas avant, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune dans mon école, il y avait dans mon collège, il y avait un club de l'audiovisuel. Il y en a beaucoup moins des clubs de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'on apprend moins à faire du montage vidéo, à faire des découpages, à faire à mettre des bandes son, à accompagner une image d'une musique. Sauf que ça avait un vrai intérêt ça. Aujourd'hui, on a l'avantage sur certains DVD de trouver des making of, des bonus où on va apprendre, on va montrer à un enfant, un ado comment est construit son film. Bon, ça enlève parfois un petit peu la magie, mais au moins, il se rend compte qu'il y a un montage, il y a des maquillages, il y a ce genre de choses. Moi, j'ai été très surprise un jour. J'ai déjà fait une conférence sur l'ado et la sexualité. Il y avait une observation d'adolescent qui était très intéressante. Il avait, avec des copains, réussi à s'introduire au salon de l'érotisme à Tours, sans l'accord de leurs parents. Ils n'avaient pas dit qu'ils allaient là, bien sûr. Et puis, en fait, ils avaient réussi à gruger toute la partie qui était interdite aux mineurs. Je ne sais pas comment ils s'étaient débrouillés, mais ils avaient réussi à passer à la partie interdite aux moins de 18 ans. Et ils avaient assisté au tournage d'un film pornographique. Et bien, ce qui les avait hallucinés, c'était de voir qu'on remplaçait l'acteur. Parce qu'il n'était pas performant au moment où on devait filmer. Et que du coup, on avait une doublure sexe. Et que ça les avait hallucinés, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé, en fait, que dans ce type de film qui semble très réel, puisque c'est filmé comme si c'était presque un documentaire, ils n'avaient pas pensé qu'on pouvait, comme dans d'autres films, avoir des doublures. Et ça les avait, l'adolescent m'avait dit, moi, ça m'a complètement décomplexé. Je lui dis, comment ça? Ben, il me dit, je me suis dit, même lui, il n'est pas tout le temps performant. Du coup, ça l'avait rassuré. Voilà, de se dire que cet homme-là, il devait tourner à ce moment-là, ça marchait pas, donc on a dit, on prend la doublure. Voilà. Donc il découvrait comme ça, donc je m'étais dit, bon, ils ont accédé à un truc auquel ils ne devaient pas accéder, mais ça a quand même eu un avantage pour eux, c'était de découvrir que derrière l'image, il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé, et entre autres que c'était pas forcément le même gars, en fait, à chaque fois. En même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la voiture en venant, dans les films pornographiques, on voit souvent le visage des femmes, mais très peu celui des hommes pendant l'acte sexuel, ce qui fait qu'on peut remplacer effectivement le bonhomme par une doublure, puisqu'on le voit peu. Voilà, donc ça aide. Donc ça, je pense que ça les avait un peu. Enfin, en tout cas, lui, il m'a dit, ça m'a déculpabilisé. C'est-à-dire qu'il était moins inquiet quand il était moins performant ou quand c'était moins. Comment dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà.
Voilà, absolument. Ça vaut vraiment le meilleur. Et une autre question? Une autre?
Alors moi j'en profite du coup, c'est plus sur l'accès à la pilule. Effectivement, donc j'ai pu voir de nombreuses filles pour avoir la pilule, donc elles voient avec leur maman. Et bien sûr, les papas ne sont jamais, jamais au courant. Est-ce que ça peut poser un problème entre la relation enfant et père, parce qu'au bout d'un moment, il va peut-être se rendre compte quand même que plus elle va grandir et quand même il va peut-être se poser la question qu'elle prend la pilule ou pas, ou même dans le couple. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vraiment le papa doit être au courant ou non? Le papa n'est au courant de rien, et puis au moins ça se trouve, ça s'en porte pas plus mal.
Alors, est-ce qu'il faut se poser la question si le papa doit être au courant ou pas? En fait, je pense que l'adolescent met au courant la personne qu'elle veut, ou qu'il veut. Là, on parle de pilule, donc l'adolescente. Elle va mettre au courant la personne dont elle a besoin qu'elle le soit. Et entre autres, à ce moment-là, forcément, la plupart du temps, c'est sa mère. Pourquoi ? Parce que si elle doit parler de rapports sexuels et de sa propre sexualité en tant que femme, elle va forcément aller chercher quelqu'un qui sait de quoi elle parle, donc elle va aller chercher une semblable, donc sa mère, dans la majorité des cas. Elle va faire en sorte que son père soit pas au courant parce que les filles ont souvent l'idée que leur père opposera un non catégorique à leur sexualité parce que c'est sa petite fille, il veut pas la voir grandir. C'est pour ça que souvent les papas sont pas informés. Parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Et puis comment il va accueillir mon petit ami la prochaine fois qu'il vient en se disant que ce type-là pose la main sur moi ou, voilà. Et donc, du coup, souvent, elles préfèrent en parler à leur mère parce que c'est rassurant de parler à ça de quelqu'un du même sexe. Le fait qu'il y ait un secret entre la mère et la fille sur ce sujet, et pas problématique. S'il y a une bonne relation dans le couple, c'est pas problématique. C'est-à-dire qu'elle a le droit de ne pas le divulguer à tout le monde, cette adolescente. Elle a le droit de ne faire de sa mère à ce moment-là que sa confidente pour ce sujet-là. Mais qui vous dit qu'en réalité, le père n'est pas confident d'autre chose, qu'on n'a rien à voir avec la sexualité de cet ado, mais dont la mère n'est pas au courant. Parce que je pense qu'en réalité, on va confier certaines choses à notre père, certaines choses à notre mère, et on va dire à chacun des deux, tu ne le dis pas à papa ou tu ne le dis pas à maman. Parfois, ils en parlent entre eux, mais on n'est pas au courant qu'ils en ont parlé, mais en fait, ils sont déjà au courant. Voilà, parce qu'ils n'ont pas toujours respecté le fait qu'on dise tu ne le dis pas. Parce qu'il y a certains sujets dont le parent va estimer que l'autre parent doit être au courant, mais qu'il doit prétendre qu'il ne l'est pas. Voilà, il va, voilà, je te le dis, mais tu fais comme si tu ne savais pas. Voilà, parce qu'il pense que c'est important que l'autre parent soit au courant au cas où. Mais au cas où, c'est-à-dire que si un jour il se passe un truc, si le parent qui est au courant n'est pas là, ce serait problématique que l'autre ne le soit pas. Du coup, parfois ils vont informer, mais surtout tu fais celui qui ne sait pas, tu gaffes pas, quoi. Voilà, donc je pense qu'en fait l'adolescent le dit à la personne dont elle a besoin à ce moment-là en réalité. Si elle a pas confiance en la réaction de sa mère par rapport à ça, c'est pas à sa mère qu'elle ira le dire. Elle ira en parler à une tante ou à la c'est ce que je disais au tout début de mon intervention, ou à la maman d'une de ses amies, ou faire comme moi, directement au médecin. Moi, je suis passée directement par mon médecin pour en parler, pour parler de ma sexualité, pour parler de mon désir d'avoir un contraceptif. C'est-à-dire que j'ai demandé à ma maman de me prendre un rendez-vous chez le médecin sans lui donner la raison. Je pense qu'elle s'en est doutée. Un petit peu, et elle m'a dit, tu veux pas que je sois avec toi dans le bureau? Non, je lui dis non. Et j'ai donc décidé avec mon médecin de la prescription d'une pilule sans que ma mère soit au courant. En sortant, je suis passée à la pharmacie l'acheter. Bon, elle a vu ce que j'achetais. Et en fait, j'ai fait en sorte, je crois bien que j'ai fait en sorte qu'elle le voit. En réalité, j'ai fait discret, Mais je pense qu'en réalité, j'ai fait en sorte qu'elle le voit en me disant peut-être qu'à un moment donné, ça amènera un sujet entre nous. J'ai fait vite fait, je le range dans mon sac. Enfin bon, elle avait repéré ce que c'était. Elle était pas idiote. Hein. Voilà. Et on en a parlé quelques temps après. Mais sur le moment, je voulais pas. Moi. Je voulais que ça reste. C'était quelque chose que j'avais discuté avec mon petit ami de l'époque, je voulais que ça reste entre moi, lui, j'avais pas envie d'en parler à mes parents, j'avais vu aussi, j'avais l'expérience de comment ça s'était passé pour ma grande sœur. Oui, quand on est l'aîné, on peut peut-être plus facilement le faire, naïvement, voilà, mais quand on a une grande sœur et quand on a vu comment ça s'est passé pour elle, on se dit, ça, moi je le garde pour moi. Voilà, ça répond à votre question? Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Allez-y, lâchez-vous.
Donc là, c'est pas une question, mais par contre, par rapport à ce que vous venez de dire, un ado donc qui ne peut pas parler à ses parents, il a également le planning familial.
Merci. On se balade avec le micro, super. Oui, c'est important ce que vous précisez. Il a effectivement la possibilité d'aller au planning familial pour pouvoir rencontrer aussi sur place un médecin, se faire prescrire aussi un contraceptif si ça passait pas par l'intermédiaire des parents et de son médecin traitant. L'avantage du planning familial, c'est que du coup, pour l'adolescent, ça reste anonyme. Je crois qu'on n'est pas obligé d'en informer les parents. Du coup, il peut faire cette démarche tout seul. Enfin, ils peuvent, le couple ou l'adolescente elle-même peut faire cette démarche seule sans avoir besoin d'en informer. Il y aura quand même là un adulte avec lequel le sujet pourra être abordé de façon un peu médicale, mais pas seulement. Donc c'est bien aussi d'informer. C'est important de pouvoir faire savoir aux adolescents et particulièrement aux adolescentes qu'elles peuvent avoir accès au planning familial, à la pilule du lendemain aussi. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont essentielles d'en discuter avec elles aussi, de les informer de tout ça.
Et le seul endroit à la CCVI où il y a une antenne du planning familial où on peut avoir un rendez-vous, c'est justement sur Èvre. C'est le seul endroit maintenant. Et pour découvrir ce qu'est le planning familial, si vous voulez pas en parler avec votre jeune, on a une émission sur le site internet de la RAGE où j'avais interviewé le planning familial qui explique toutes les démarches.
Et je rajouterai que la pilule du lendemain est gratuite pour les moins de 16 ans en pharmacie.
On a toutes les informations. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre information à donner? Voilà, tout à fait. Vous voulez en parler?
Donc, elle a 8 ans et elle est à l'école avec sa sœur. Et sa sœur nous a... Pardon ? Oui, elle a 11 ans. Et elles sont l'opposé, en fait. C'est carrément vraiment deux opposés.
La base virale VPS a été mise à jour.
Sa sœur embrassait les petites filles sur la bouche. Donc là, on a commencé à se poser des questions. À 8 ans, bon. Et puis... Ah oui, bon, d'accord. Déjà, on a commencé à... Et au début, elle avait, quand elle avait 6 ans, c'était des petits garçons. Elle expérimente. Mais là, quand sa sœur nous a appris ça, le problème, c'est que qu'elle le fasse, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, enfin, à mon goût, ce qui est plus grave. Alors, apparemment, c'est une nouvelle petite copine, parce que nous, on était deux jouets. Et cette année, donc, c'est la première année à Èvre, où elle est à l'école. Et apparemment, c'est sa nouvelle copine. Et apparemment, sa nouvelle copine le faisait déjà. Donc, alors, du coup, la mienne, elle a suivi. Pas de bol. Bon, enfin, pas de bol. C'est pas gênant. Mais bon, c'est vrai que ça... Alors, ce qui m'a posé le plus de problèmes, en fait, c'est quand sa sœur, ses petites copines, sont venues lui dire. C'est là où ça m'a posé un problème. Oui. Là, on a dit, t'as vu ta sœur ? Là, c'est là où on... Là, donc, bon. Et nous, on a agi, quand même. On a téléphoné aux parents de la petite fille, de la petite copine, quand même, pour voir un petit peu et ce qui se passait. Et apparemment, la maman était au courant. Mais nous, non. Ça ne posait pas de problème. Voilà.
Ouais, c'est bien. Ça vous a fait du bien de sortir, là ? Voilà, vous vous sentez soulagé d'avoir pu en parler, c'est bien. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Hein. C'est-à-dire que, et quand je disais, pendant que vous aviez le micro, ça commence même plus tôt. C'est-à-dire qu'on voit des enfants plus petits encore, de 3, 4, 5 ans, qui s'embrassent sur la bouche aussi, quel que soit leur sexe. La différence des sexes étant pas tout à fait appréhendée déjà à l'âge de 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que l'enfant va vraiment comprendre la différence des sexes vers l'âge de 5 ans, à la fin de sa phase oedipienne. Du coup, c'est pas... du tout problématique. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de très narcissique parfois là-dedans. C'est-à-dire que c'est aussi le moyen de prouver son affection. C'est-à-dire que l'enfant, il met rien. Il n'y a pas de connotation sexuelle pour lui dans le fait d'embrasser un autre enfant sur la bouche. Ça, c'est notre regard d'adulte, parce que nous, les gens qu'on embrasse sur la bouche, quand on est devenu adulte, c'est la personne que l'on aime, en fait. Et la personne avec laquelle on a un rapport sexuel. Pour les enfants, c'est très différent. C'est souvent une marque de tendresse, une marque d'affection, qui fait que du coup, on va prouver son affection à l'autre. Ben, comme on voit, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant ? Il voit que son papa et sa maman, qui s'aiment beaucoup, ou s'aiment vraiment bien, s'embrassent sur la bouche. Pour lui, c'est symbole d'affection. C'est-à-dire, quand je t'aime, je t'embrasse sur la bouche. Donc, bah, moi, toi, t'es ma super copine, t'es ma meilleure amie, je t'adore, je t'embrasse sur la bouche. C'est-à-dire que, mais oui, c'est exactement comme ça qu'elle le prend, parce que c'est ce qu'elle voit autour d'elle. Elle voit que quand les gens s'aiment, ils s'embrassent sur la bouche. Bon, et ben quand on a une super copine, qu'on a une meilleure amie à cet âge-là, eh bien on peut aussi effectivement lui faire des bisous sur la bouche. Donc soyez pas inquiète, et puis et quand bien même ça serait les prémices d'une orientation homosexuelle, il y a rien de dramatique à ça. Hein. Le monde dans lequel on vit nous fait croire beaucoup de choses sur l'homosexualité, comme quoi elle serait divergente, comme quoi ce serait sauf que moi je vais remettre quelques petites choses à leur place par rapport à ça. L'homosexualité n'est pas un choix. C'est une orientation sexuelle normale. Elle est minoritaire, mais elle est normale. Dans le sens où il faut savoir quand même qu'il y a 450 espèces de mammifères qui ont des comportements homosexuels. Si elle était déviante, en fait, elle ne serait pas aussi répandue. Si on considérait que l'homosexualité est une déviance, on ne la verrait pas dans autant d'espèces de mammifères. Ça veut dire qu'on est sinon 450 espèces de dégénérés. C'est pas le cas. Non mais sérieux, c'est pas le cas. Donc il y a pas, ça n'est pas que dans l'espèce humaine, c'est dans 450 espèces. Et il faut savoir aussi que le pourcentage d'homosexuels ne varie jamais. C'est toujours 30% de la population mondiale, quelle que soit la période, que ce soit aujourd'hui, que ce soit il y a 50 ans, que ce soit il y a 100 ans, ça a toujours été le même pourcentage. Ça veut dire qu'il y a des causes biologiques à ça. Ce n'est donc pas une tare. C'est donc pas un problème. Ça l'est devenu du fait d'une culture et particulièrement du fait d'une culture religieuse. Il y a eu une période où l'homosexualité, elle n'était pas du tout taboue, elle n'était pas du tout vue comme quelque chose de déviant, elle était une pratique courante. Si on prend la Grèce antique, la Rome antique, c'était des pratiques qui étaient... En fait, ça ne l'est devenu qu'il y a 200 ou 300 ans. C'est ce moment où... Quand on... Je sais pas, moi, il y a des émissions que j'aime bien à la télévision. Il y en a une, je ne voudrais pas la citer, mais elle passe sur une certaine chaîne qui parle de choses de l'histoire, en fait, de notre pays. On voit que des grands rois de France le pratiquaient tout à fait naturellement et que ça ne posait de problème à personne. Et pourtant, c'était les types qui dirigeaient cet État. Vous voyez de quoi je parle, hein. De qui je... Et de... Ah, je peux. Ouais. Ok. Donc c'est Secret d'Histoire, entre autres, de Stéphane Bern. Dans l'émission de Stéphane Bern, moi, je suis toujours très curieuse de cette émission. Je la trouve vraiment intéressante. Et on découvre effectivement que nos grands rois de France s'envoyaient en l'air avec des hommes, des femmes, et que ça ne posait de problème à personne. Et qu'on n'allait pas remettre en question l'humanité de cette personne-là, sa capacité à diriger un pays, sa capacité à être quelqu'un de bon ou pas. Donc il y a eu des périodes où ça ne dérangeait personne. Le tabou sur l'homosexualité, il est venu du fait de la religion, il n'est pas venu du fait de l'humanité. En fait, qu'est-ce qui s'oppose en réalité où, on est la seule espèce qui est homophobe, la seule, puisque sur les 450 dont je vous parle, il n'y a pas d'homophobie. On est la seule. Et sur quel critère? Un critère religieux, en réalité. C'est-à-dire que la seule opposition à l'homosexualité dans notre espèce, c'est une opposition religieuse. C'est un critère religieux. C'est-à-dire que l'homophobie n'existe que parce que on est la seule espèce qui croit en Dieu. Voilà. Moi, j'ai remis les choses à leur place, c'est important pour moi. Il y a un documentaire qui va passer la semaine prochaine, je crois, sur France 2, qui parlera justement de l'homosexualité, où un psy explique que ça n'est donc pas un choix. Ça voudrait dire quand même que si les homosexuels choisissaient d'être homosexuels, ils auraient un choix quand même sacrément masochiste de se faire rejeter par cette société et d'en prendre plein la tête. Non, ils font pas ce choix, ils le sont, c'est tout. Pardon. Micro.
On a dit surtout que c'était maladif, hein, souvent.
Oui, on a dit surtout, on a dit parfois que c'était maladif, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a dit qui étaient maladives sur, c'est-à-dire que la psychologie, la psychiatrie a évolué avec le temps, et il y a des choses qu'on considérait comme étant, par exemple, on sait aujourd'hui que certaines femmes qu'on a considérées folles à la fin de leur vie, en fait, étaient Alzheimer en réalité. Sauf qu'il y a eu une période où on n'avait pas identifié cette maladie neurodégénérative et qu'on croyait qu'elles devenaient folles à la fin de leur vie, et on disait d'ailleurs à leur fille ou à leur petite fille, tu finiras folle comme ta mère ou ta grand-mère. Alors qu'en réalité, elle n'était pas folle, elle devenait Alzheimer, c'était un vieillissement précoce. Heureusement que la psychiatrie et la psychologie a évolué pour arrêter de stigmatiser les gens de cette façon. Faut savoir quand même que l'homosexualité, il y a une bible pour les psys qui s'appelle le DSM, qui est en fait un manuel c'est le manuel des syndromes, disorder syndrome manuel, qui est donc le manuel des désordres psychiatriques, on va dire. L'homosexualité n'y figure plus. C'est sa version 5, je crois. C'était jusqu'à la version 3, le DSM-3. L'homosexualité figurait comme étant une déviance depuis le 4 et le 5. Elle ne figure plus. C'est-à-dire que les psys sont revenus quand même sur leur jugement face à l'homosexualité en se rendant compte que non, ça n'était pas un désordre psychotique, c'était pas un désordre psychiatrique et que ce n'était donc pas une maladie et qu'elle n'avait pas besoin d'être soignée et qu'on n'avait pas besoin de réformer les homosexuels pour les faire re-rentrer dans ce qu'on disait être le droit chemin. Voilà. Ils n'avaient pas besoin d'avoir des traitements de choc pour redevenir hétéro. Voilà. Puisqu'en réalité, ils n'avaient pas besoin de traitements de choc pour redevenir hétéro, puisqu'hétérosexuels, ils ne l'avaient jamais été. Ils étaient homosexuels depuis leur enfance, depuis toujours.
Là, en fait, c'est un peu pour rejoindre là, ce qu'on vient de dire. Mais alors, moi, j'ai oui dire. Que tout le monde avait une part de bisexualité en soi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, ce que j'en pense, moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, il faut savoir quand même que d'un point de vue neurologique, notre cerveau est bisexué. Nous produisons des hormones mâles et femelles. C'est ce qui fait que pour nous, les femmes, nous avons de la pilosité parce qu'on produit un peu de testostérone. Que si les hommes, parfois, en prenant du poids, développent un peu de poitrine, c'est aussi parce qu'ils ont aussi quelques hormones femelles. Donc, on produit les deux. C'est-à-dire que le cerveau humain est bisexué, déjà, d'un point de vue hormonal. La bisexualité serait quasiment une norme. C'est les sociétés qui vont ou pas faire évoluer cette norme. C'est-à-dire qu'on va trouver des sociétés dans lesquelles ça pose aucun problème. Et puis, on va trouver des sociétés dans lesquelles on va dire que la norme est l'hétérosexualité. Mais par nature, on le voit, c'est ce que je vous disais, ces 450 espèces qui le pratiquent de façon naturelle. C'est-à-dire que ça n'est pas différencié. Il y a une étude qui était intéressante, qui a été faite par des chercheurs américains qui ont voulu voir l'honnêteté aussi des gens. Donc, il fallait qu'elle soit anonyme. Cette étude, en fait, elle demandait aux hommes et aux femmes s'ils avaient déjà eu des fantasmes homosexuels. Pas des pratiques homosexuelles, mais des fantasmes homosexuels. Je pense que les femmes sont plus honnêtes là-dessus que les hommes, parce que notre société nous permet peut-être de l'être un peu plus. C'est moins engageant pour nous de dire que oui, on on peut avoir eu des fantasmes, pour les mecs, c'est un peu plus gênant dans le monde dans lequel on vit. Ce que cette étude a révélé, c'est que 60% des femmes qui avaient répondu à ce questionnaire disaient que oui, elles avaient eu des fantasmes homosexuels. Ça ne veut pas dire des passages à l'acte homosexuels, mais ça veut dire que dans leur sexualité, elles avaient fantasmé des relations homosexuelles. Les hommes ont répondu oui à 40%. Je pense qu'ils n'ont pas été très honnêtes. Je pense que certains n'ont pas osé dire, en fait. Voilà. Mais ça prouve quand même que, en majorité, à 50% en moyenne, oui, on en a. Ça veut dire que ça fait aussi partie de nous. Ça ne veut pas dire que parce qu'on en a, on va avoir des passages à l'acte. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on aura des pratiques homosexuelles, mais ça veut dire qu'on y pense. Et comme je le disais pendant mon intervention tout à l'heure, à l'adolescence particulièrement. C'est vraiment un moment où les adolescents se posent la question de leur orientation sexuelle. J'ai reçu une adolescente qui est venue me voir dans mon bureau. Elle s'est posé la question pour elle, alors qu'en fait, rien ne pouvait dans sa vie d'adolescente le laisser présager. Mais je lui dis, mais tu as déjà été attirée par des filles? Elle me dit non, mais elle me dit, je me pose la question. Enfin, il y a l'air de dire, c'est complètement idiot ce que vous êtes en train de me demander, j'ai quand même le droit de me poser la question. Et j'essayais de comprendre ce qui pouvait l'amener à se poser cette question. Et il se trouve qu'elle a un oncle homosexuel et que forcément, du coup, le sujet est débattu dans sa famille et qu'elle s'est demandé. Tout simplement, elle me dit, moi je me pose la question, et puis je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Et donc on en a discuté, et puis 15 jours plus tard, elle est revenue en me disant, mais je crois que je ne le suis pas. Je lui dis, elle me dit non, elle me dit, je ne suis pas attirée par les filles, elle me dit, je les aime bien, mais elle me dit, c'est des copines, quoi. Et elle me dit, je me rends bien compte quand même que je suis beaucoup plus attirée par les garçons. Et en fait, elle, la question s'était posée, puisque dans sa famille, il y a quelqu'un qui est homosexuel. Donc effectivement, pour elle, c'est venu peut-être plus librement de se poser la question, de ne pas se culpabiliser de se la poser, parce qu'elle a un membre de sa famille qui est homo. Pour ceux qui n'auraient pas de membre de famille qui serait homosexuel, la question va être un peu plus traumatisante quand ils vont se la poser, parce que notre monde renvoie une image tellement négative de ça que forcément ils se culpabilisent de se poser la question. Alors que c'est quelque chose de très normal, en fait. Et que oui, on serait tous plus ou moins bisexuels. Après, on a forcément des préférences.
Une autre question? C'est bon? En tout cas, je vous invite à prendre du coup les livres qui se trouvent sur votre sur la table derrière. Sachant que je reviens vite fait rapidement dessus, ce sont quand même des témoignages. Enfin, tous les jeunes, en fait, tous les témoignages de jeunes ont été recueillis au sein des accueils jeunes. C'est vraiment des jeunes en fait qui viennent dans les 8 accueils jeunes de la CCVI. Non, mais c'est vraiment des vrais témoignages. C'est pas des témoignages inventés ou quoi que ce soit, mais là, parce que c'est vrai que des fois on dit ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça, mais là pour le coup, ce sont des vrais témoignages de jeunes, voilà, qui fréquentent nos accueils jeunes. Et puis pour les adultes, du coup, c'est souvent des parents, mais tous ont participé anonymement. Donc voilà. Donc je vous invite en tout cas à prendre le livre et le découvrir. Et puis par la suite, il y a un petit pot qui vous attend où vous pourrez toujours continuer à échanger autour de cette thématique ou non d'ailleurs.
Oui, je voulais vous remercier d'être venu, de votre écoute, de vos questions et de vos échanges. Merci.
Et pour certaines personnes qui sont intéressées, donc nous avons un studio d'enregistrement que vous pouvez voir au fond de la salle. Donc si certaines personnes sont intéressées pour parler en